18h, 20h, Fou de sport. Avec Mohamed Marouf sur Beurre FM.
Bonsoir, ravi de vous retrouver comme chaque dimanche, 18h, 20h sur l'antenne de Beurre FM. Bien entendu, c'est une émission qui sera consacrée au football dans son sens le plus large, notamment Coupe d'Afrique, Euro, Copa América. Bien entendu, on parlera des coulisses, les coulisses que connaissent nos spécialistes ici sur le plateau. Et en deuxième heure, bien entendu, nous allons vous parler d'un livre qui est sorti il y a quelque temps maintenant et qui s'est intéressé aux footballeurs algériens depuis la colonisation jusqu'à nos jours. Merci le football des immigrés. C'est l'histoire en partage entre la France et l'Algérie de Stanislas Frankiel. Merci à notre invité de m'avoir montré cette couverture. Alors je vais commencer, une fois n'est pas coutume, par un petit texte comme ça, parce que on est un petit peu dans un monde tristouné. Et c'est vrai, mes chers amis, habituellement, à cette période de la saison, principalement sportive, plutôt même fin de saison, puisque normalement tout est fini, quoi. On se prépare tous ensemble à parler de projets vacances. Allez, ben dans le pire des cas, on se dit bon, on n'a rien trouvé. Il y a un Paris Alger, et puis moi je me retrouve chez moi à Tixirt, chacun dans son petit coin là-bas au Bled. Et puis voilà, deux années de suite, il y a un certain Monsieur Baouch, voilà, ben c'est lui, qui nous dit si vous bougez, je vous pique les poumons. Grosso modo, Neymoutrasé, tu bouges pas, blaze à l'année que tu restes là. Alors, que faire, Serge? Bon, trouver un lieu peu fréquenté, éviter les contacts pour survivre. On nous a promis un bel été après la vaccination. Voilà que les clusters rebondissent partout, surtout sur la rive sud de la Méditerranée qui est en train d'exploser tous les chiffres. Et face à cette fatalité que nous subissons, nous avons espéré que le sport reprenne ses droits. Ouais, loup! Des clusters à gogo durant l'Euro de foot, les JO de Tokyo à huis clos et le prix impossible pour finir cette introduction de l'émission, le prix impossible pour les supporters de la GSK qui étaient censés partir au Bénin, encourager leurs joueurs préférés et finalement les Canaries se sont retrouvés avec des joueurs de l'immigration qui sont venus d'un peu partout du monde et non pas du bled parce que les 145 000 dinars, ce n'est pas à la portée de tous. Bien entendu, je commencerai cette émission par celui qui a dirigé la GSK, l'équipe nationale, qui connaît les rouages du terrain africain. C'est notre coach national, Monsieur Nasser Sandjak. Bonsoir coach.
Oh Mohamed, tu nous as fait une totale là. C'est magnifique, c'était émouvant. Oui, bien sûr, ce que tu dis, c'est exactement ça. Si ce n'est que, interview la Coupe d'Afrique, la finale, hein, c'est, comme dirait l'autre, une finale, ça se joue, mais ça se gagne surtout. Le reste, c'est que du discours. Et ce qu'on a vu hier, on va pas être méchant avec les joueurs, mais on va dire que, sur le plan psychologique et sur le plan de la préparation de cette finale, il y a des choses à redire, beaucoup de choses à redire. Mais bon, tu nous as parlé du Bush. Donc on va se mettre de côté oui. Et on va attendre que ça passe.
Alors pour ceux qui ne le savent pas, le Baouch, bien sûr, le Covid, hein, on l'appelle le Baouch parce que le Baouch, c'est un microbe invisible qui fait beaucoup de dégâts. Il fait beaucoup de dégâts. Ensuite, lui, il fait partie de cette nouvelle génération d'analystes du foot dont l'expertise devient pertinente. Et j'ai nommé Sofiane Ndeloussi. Bonsoir Sofiane.
Bonsoir mon frère.
Attends, voilà. Ouais, c'est bon micro, vas-y.
Bonsoir Mohamed, je te remercie de cette présentation et je remercie de tous nos, comment dire, toute l'équipe. Ça fait plaisir d'avoir le plateau aussi plein. Et effectivement, on est content de participer à l'analyse. Et puis je suis toujours éclairé par les lumières de notre coach international, puisque tu as dit national, mais c'est international. Hein. Rien qu'il a des analyses et des, comme j'ai dit la semaine dernière, hommage du sport rendu.
Très bien. Et puis. Je finis d'abord, ensuite vous aurez tous les micros qui sont ouverts, puisque au fur et à mesure. Alors maintenant, c'est dans l'analyse du comportement humain, encore plus aujourd'hui, depuis le Hirak, en passant par le Baouch, là, depuis 2019. Mais pour moi, c'est aussi un honneur que de le recevoir ce soir. C'est notre très grand sociologue et journaliste algérien, M. Hassan Zeraoui. Bonsoir, Hassan.
Bonsoir, Mohamed. Bonsoir, à Nasser, le coach. Bonsoir, Sofiane. Bonsoir, Nawal. Eh bien, voilà, je suis content d'être ici avec vous. Bien sûr, grand nom, c'est sociologue tout court, ça me suffirait. Voilà, je suis
modeste.
Là pour apporter ma modeste contribution, effectivement, à l'histoire du football et les footballs, et surtout à l'histoire du football et l'immigration. Parce que ces deux concepts sont liés, immigration et football. Et c'est de cela qu'on parle à Radio Beurre, Mohamed, dans ton émission, là, qui dure de 18h à 20h. J'espère qu'on ne fatiguera pas les auditrices et les auditeurs par les résultats qui ne sont pas très bons. Oh. Effectivement, voilà, je vais m'arrêter là, mais c'est vrai qu'il y a d'un côté le football, le sport en général, et de l'autre côté la Covid-19, puisqu'on l'appelle la Covid-19, je ne sais pas pourquoi.
Moi, je sais pas.
Alors oui, on ne sait pas pourquoi. Bon, au lieu que ce soit le Covid, le virus, normalement c'est masculin, mais bon, on a dit la Covid-19, c'est que on vit dans une drôle de société, on est comme dans un cimetière à ciel ouvert. Il ne manque lui que mettre le couvercle. Du coup, c'est une société de distanciation plutôt que d'une société qui fasse lien social. C'est au contraire, on défait le lien, on est replié sur soi, et donc c'est chacun pour soi, chacun sauve sa peau. C'est vraiment le slogan qu'on pourrait utiliser pour la Covid-19.
Très bien, merci Hassan Zeraoui. Et puis pour finir, forcément, déjà de par son retour, même par intermittence, c'est normal. Il faut laisser bébé grandir, le temps qu'il rentre à l'école, qu'il laisse un peu de liberté à sa maman. Eh ben, elle suit malgré tout régulièrement notre actu sur les réseaux sociaux pour l'émission Foot de Sport. C'est ma chère Nawal que je salue. Bonsoir Nawal.
Bonsoir Mohamed, bonsoir Nasser. Monsieur Da Hassan et Sofiane, ravi de vous retrouver comme toutes les semaines, hein, même si je suis pas vraiment présente sur le plateau, je vous suis depuis la maison. Et on n'oublie pas aussi de rejoindre plutôt la page Facebook Foot de Sport, hein, ainsi qu'à l'Instagram et Twitter, et vous aurez toute l'actualité hebdomadaire. Hein.
Merci Nawal. On va commencer sans plus tarder avec le premier sujet. Bien entendu, on l'a suivi hier, c'est la finale de la Coupe de la Confédération africaine de football. Une finale 100% Maghreb, Maroc, Algérie. Victoire du Raja de Casablanca, 2-1. Mais sur l'entame du match de la jeunesse sportive du Kabylie, on pouvait dire que franchement, quand on a une équipe qui n'est pas habituée à vivre avec la pression, eh bien, ça donne ce résultat. Donc, sans plus tarder, ça fait partie justement de cette actualité du sport côté africain.
Le sport côté Afrique.
Je commence, coach, tu as été entraîneur de cette JSK, tu connais très bien le club, ses rouages. Hier, on a vu une équipe qui nous a vraiment peut-être pas surtout la première mi-temps, on n'a pas reconnu l'équipe, hein, c'était du n'importe quoi. Surtout ouais, au premier quart d'heure.
Non, il n'y a pas que le quart d'heure, il y a eu tout le match, hein, c'est tout. Simplement, il y a eu des scénarios qui sont mis en place et qui répondent à la gestion du stress, à la gestion de la peur, à la gestion d'une finale de Coupe africaine. Ça veut dire que tu ne joues pas une finale de Coupe d'Afrique ou une finale de Coupe d'Europe comme tu joues à un match normal. Il y a des paramètres qui sont très très importants. Un, ce sont les coulisses. Deux, c'est la gestion du groupe. Trois, c'est la gestion du staff. Quatre, c'est la gestion du staff présidentiel. Et comment ils articulent ça? Moi, sur ce que j'ai vu, là, j'ai vu une équipe qui était apeurée, qui s'est libérée au bout de... quand ils ont pris la claque, les deux claques, parce qu'à la mi-temps, s'il y avait 3-4-0, le match était mort, il est cuit, parce que ta gestion n'est pas là, elle n'est pas faite, parce que tu n'as pas eu la réponse. Moi, quand je fais la finale de Coupe d'Afrique, on vient avec Khalef. Mahidine pompe la presse. Pompe tout ce qui est presse. Et moi, il me laisse travailler de côté. Quand il me connaissait que j'étais entraîneur de l'équipe nationale, moi, je viens avec une expérience autre. Et donc, les joueurs, ils sont rassurés, ils sont en place. La JSK n'a pas mis ça en place hier. À part Heibout qui a gagné les Coupes d'Afrique, tous ceux que j'ai vus hier, que ce soit dans les tribunes ou sur le banc de touche ou sur le terrain, n'ont jamais joué de finale de Coupe d'Afrique. Aucun. C'est la première finale qu'ils jouent. Le Raja, tu as le président du club qui est là depuis X années, ils en sont à 8. Les joueurs ont gagné 3-4 dans leur carrière facilement. Et tu as vu l'aisance dans le jeu qu'il y a eu au début du match, la tranquillité chez les Marocains, quand nous, on a vu des garçons apeurés qui étaient en surnombre derrière, qui ne savaient pas, qui montaient, mais des trucs du béaba, quoi. La gestion du premier quart d'heure, elle est primordiale en Coupe d'Afrique. Primordiale. Et ça, après, on peut me dire ce qu'on veut dedans. Le match, il est mort dès le départ. Depuis le départ, il est mort. Parce que tous les éléments n'ont pas été mis en place pour pouvoir. Après, je ne suis pas rentré dans le groupe et ce qu'a fait M. Lavagne. Je respecte le parcours qu'ils ont fait. Mais quand tu veux gagner une Coupe d'Afrique, il faut que tes joueurs viennent comme ils sont rentrés en deuxième mi-temps. C'est-à-dire que tu as tellement regardé le Raja, tu as tellement vu leur point fort, tu as oublié, toi, ce qu'il fallait faire avec ton équipe. C'est-à-dire que tu as voulu contrer l'équipe derrière. Non, si tu joues avec tes moyens. Bon, je ne vais pas faire des comparatifs. Je ne connaissais même pas un joueur de l'Ismaïlia, sauf Outaka.
Oui,
c'est pas la même celui-là. Off. Et cette gestion-là, elle a fait que voilà, tu as eu des joueurs qui ont mis pratiquement une heure pour jouer, pour commencer à jouer. Quand la fatigue était là, quand c'est tombé, et quand il y a Amroun qui est rentré, vraiment, qui a apporté. Mais on a vu d'autres joueurs qui ont commencé à bouger. Vraiment, c'est-à-dire qu'à un moment, ils sont libérés, ils se sont dit on peut gagner alors. Oui, tu peux gagner, tu devais gagner. Et comment se fait-il que la porte ne s'est pas ouverte dès le début? Allez, à l'histoire, comment se fait-il que cette équipe-là, qui a joué une finale, parce qu'il faut 10 ans pour revenir dans une finale, attention, hein, ou 20 ans, pour pouvoir dire ailleurs, comment se fait-il que les portes ne sont pas ouvertes sur le plan psychologique, sur le plan mental, que ces garçons n'arrivent pas avec... c'est une des premières raisons, je dirais, c'est la différence qu'il y a entre le football marocain et algérien. Le football algérien est d'une agressivité phénoménale. Agressivité avant le match, pendant le match et après le match. Tout le temps. Quand vous allez au Maroc, moi j'y étais pendant 8 mois, donc j'ai pu voir le championnat marocain, j'ai vu que des joueurs extrêmement calmes, extrêmement posés, mais vraiment d'un flegme, et on l'a vu hier, reprenez le début de match, regarde les jouer, tu vas voir, les Marocains, ils ont ce calme, c'est comme un peu, je sais pas qui, où on pourrait les comparer en Europe, mais on voit que ça joue facile, tranquille, il n'y a pas de pression qui tombe sur eux. Par contre, nous, regarde, reprends les 20 premières minutes, regarde les joueurs, et regarde surtout... le rapport à l'arbitrage. Regarde comment nous, on a essayé de chercher des problèmes, et cela. Et en fin de compte, même eux, à 10, ils ont encore tenu leur calme.
Mais c'est ça qui était terrible. Même à 10, ils n'ont pas paniqué.
Ah, jamais. L'ennemi du haut niveau, et Hassan est là pour m'expliquer, l'ennemi du haut niveau, c'est le stress. C'est la gestion. Les grands amis des grandes personnalités dans le monde entier, c'est le calme. C'est la capacité à l'analyse. Tout le temps. Et ne pas se faire embarquer par moindre chose qu'il peut vivre et l'emmener dans la colère, la frustration, et les mecs ressortent qui. C'est pas ça.
C'est débordé par les émotions.
Ouais, c'est tout à fait ça. Et les émotions ont pris un tel. Et hier, je l'ai bien vu, moi, dès que j'ai regardé le match, je connais ces genres de matchs. C'est 20 minutes, tu joues pas, 20 minutes, tu prends 2-0, t'en as pris 3-4, tu rentres à la maison et le match était cloué. Il y a eu un regain à la mi-temps pour remettre un peu. Après, les Marocains ont resté. Après, comme dirait l'autre, l'histoire, c'est que la finale, tu la gagnes. Il n'y a pas de bien, pas bien. Aujourd'hui, dans ce monde-là, comme expliquait Mohamed, notre ami Hassan, il disait la Covid, ça a créé une séparation entre les gens, entre le lien et le désordre. Et aujourd'hui, on est dans le désordre complet, ce qui fait que les gens deviennent propres à eux-mêmes. Ils sont sur des avis, leur ego se développe. Ouais. Ils ne regardent plus les gens à côté. Et donc, l'équipe, là, hier, on les a vus jouer ensemble pendant 30 minutes, la fin du match. Et encore, à 2-1.
Surtout qu'ils avaient réduit le score juste après la reprise.
Tout à fait.
Au retour des vestiaires, ouais, immédiatement après.
Mais après, on a vu une gestion des Marocains qui était magnifique. Hein. C'était magnifique.
Bah, la question du calme, c'est aussi une question de société, de culture.
Ah, et comment
oui.
Ah, je parle que de ça, moi. Ouais. Tous les jours, si on disait ça.
Ouais,
c'est comment on arrive, nous, comment on arrive avec des garçons extrêmement énervés. Énerveux, ce sont les enfants du...
C'est deux sociétés qui ont des histoires différentes.
Complètement.
Là, c'est une monarchie constitutionnelle. Et ça implique un certain nombre de rapports sociopolitiques. L'autre, c'est une république révolutionnaire, mais dont le stress permanent, la gestion du manque dans la société algérienne. Le manque, c'est quelque chose d'incroyable. Quand t'es dans un bus, la peur de ne pas avoir sa place, quand on fait une chaîne, chaîne pour un produit. C'est tout ça, ça marque les esprits. C'est-à-dire qu'on est dans le habitus, comme dirait Bourdieu. C'est-à-dire c'est une mécanique mentale qui se met en marche. Et du coup, l'agressivité, c'est une forme d'expression de la peur.
C'est ça. Et moi, il y a longtemps, je parlais de cette gestion de la formation, je ne vais pas dire psychique, mais on parlait de psychologie. Je dis, il y a une formation à mettre en place chez nos jeunes joueurs, très tôt, très vite, pour pouvoir voir des joueurs qui ont. Quand on voit les joueurs qui sont de l'équipe d'Algérie et qui sont tous des émigrés, qui ont tous cette gestion qu'ils ont appris dans les clubs européens, c'est ce qui fait qu'ils ont gagné le titre. S'il n'y a pas ça, si on met des joueurs à gérer. Et regardez bien dans les comportements des joueurs qui sont à l'intérieur de l'équipe nationale, regardez bien les comportements des joueurs locaux, les
Bundesliga. Ça crée quelque chose de déséquilibré. C'est hétéroclite.
On les a vus dans les matchs, attention, et on a vu l'extrême, c'est de voir les joueurs pleurer à un point. Moi, quand on a gagné avec le monde, qu'on avait préparé.
Un collectif, c'est celui qui gère l'interférence et l'interaction. C'est ça le collectif. Mais bon, quand le collectif ne fonctionne pas, ça rejaillit automatiquement sur les individualités. Parce que les individualités sont importantes dans le football. Mais c'est avant tout un jeu collectif. En vue des objectifs, on gagne ensemble ou on perd ensemble, quel que soit le joueur.
C'est mieux quand tu as des grands joueurs dans ton
ensemble. Oui, absolument. Je dis les joueurs importants, c'est important, les individualités.
Allez, très bien. Merci, on va marquer une pause là. C'est passé tellement vite. On se retrouve dans un instant pour la suite de ce Foot de Sport.
On va écouter Sofia maintenant.
Reviens dans un instant sur Beurre FM. À 20h. Foot de sport. Sur Beurre FM.
Bon, il y a une ambiance exceptionnelle sur le plateau de Foot de sport. C'est normal parce que on est plein, passez-moi l'expression. Je vais maintenant aller parler avec Sofiane parce que toi aussi, t'es un regard différent, cette nouvelle génération, sur ce que tu as vu hier notamment, de ce fameux match.
Ouais, j'ai regardé le match dans son entièreté hier. Sur les antennes de Bein. Déjà, première des choses sur ce qui concerne les alentours du match. Alors, j'ai trouvé déjà ça s'est joué sur une bonne pelouse. Déjà, c'est important. Et avec j'ai trouvé un bon arbitre. C'est souvent on fustige ça en Afrique. Donc ça, c'est bien de le souligner. Après, sur le match, effectivement, moi, j'avais en tête avant de commencer le match, que me dit souvent Nasser quand on se voit, quand on se parle, c'est-à-dire que Nasser dit que entre les locaux marocains et les locaux, le football local marocain, le football local algérien, il y a un gap d'écart. Et effectivement, quand tu prends la JSK, c'est à peu près deuxième, troisième larron en Algérie contre le Raja, qui est pareil. Bah, tu vois tout de suite dès la première mi-temps qu'il y a une casse d'écart. Il y a pas que les Marocains ont des joueurs que les Algériens, enfin la JSK n'a pas, notamment des joueurs venus d'Afrique subsaharienne. Moi, j'ai vu
Malango.
Voilà, Malango qui a fait.
C'est pas du café, hein, c'est juste.
Ouais, qui a fait très très mal à cette équipe de la JSK d'entrée. Et effectivement, dans une finale comme ça, on le verra ce soir, mais en principe, une finale, c'est toujours serré. C'est rare que d'entrée, tu aies une équipe qui se détache comme ça. Or là, tu prends deux buts dans le premier quart d'heure.
À cause de la passivité de la défense, notamment.
Oui, exactement. Et comme je disais à Nasser au téléphone, la remarque que je fais, c'est qu'à chaque fois que le Raja a attaqué, parce qu'une fois qu'ils ont mis les deux buts, ils ont attendu et ils ont géré leur avance. Et à chaque fois que le Raja attaquait, la JSK se faisait transpercer derrière. Et alors après, on peut retenir, c'est vrai que la JSK revient à 2-1 tout de suite, 15 ou 20 secondes après le retour des vestiaires. Ils ont aussi la supériorité numérique un quart d'heure après.
C'est ça, à l'heure de jeu, ouais.
Mais en vrai, si on regarde l'ensemble du match, malheureusement, il y avait une classe d'écart entre les deux équipes. Je pense que et ça rejoint ce que m'a envoyé Nasser, le classement des championnats ou le championnat marocain. Je crois que c'est le meilleur championnat d'Afrique à l'indice CAF. Donc voilà, c'est QFD.
Ouais. Non, mais les choses ne se passent pas aussi. C'est pas, il y a pas, comme tu disais, Mohan, la passivité, il y a pas. C'est de la gestion d'émotions émotionnelles. C'est-à-dire qu'à un moment, est-ce que tu gères ça? On sait que nous, aujourd'hui, dans le football mondial, vu les joueurs qu'on voit, vu les niveaux de pratique qu'il y a aujourd'hui, vu le niveau de compétence qu'il y a aujourd'hui, fait que aujourd'hui, nous, on se rend compte qu'on est très loin. Ouais. Ça veut dire que tu es parti dans un dans un vrai problème là. Là, hier, tu as vu une vraie problématique pour le football algérien. C'est-à-dire, est-ce que tes joueurs sont capables de gérer? Non, au-delà du résultat, tu regardes les contenus.
Bien sûr.
Et nous, on regarde les contenus. Les entraîneurs, les gens qui sont spécialistes de la, du métier, savent que le contenu est très, très important. Et là, on a vu hier des mômes qui étaient perdus avant de prendre l'avion. C'est même pas là. C'est toute cette gestion-là que tu vois qui fait que quand tu as lâché les, j'allais dire, les zèbres sur le terrain, tu vois des mecs qui bougent pas, apeurés, qui courent pas, qui sont là. Ils viennent.
Oui, oui, c'est-à-dire qu'on les a pas préparés en leur disant jouer comme si c'était un match ordinaire.
Non, tu le dis pas, ça se dit pas.
Psychologiquement, oui.
Tu le dis pas. C'est juste que tu mets en pratique.
Oui.
C'est de la pratique.
Oui,
c'est de l'expérience personnelle de chaque individu.
Mais, bien sûr. Ben oui.
Le mec qui n'a jamais joué une finale de Coupe d'Afrique depuis toute sa vie, tu le jettes dans un stade. En plus, ils ont la chance qu'aujourd'hui, ils ne font pas l'aller-retour.
Non.
Parce qu'ils auraient été au Raja, il y aurait eu 200 000 personnes.
Il aurait fallu leur enlever leur timidité, intimidation, parce qu'ils ont, ils étaient dans la peur. Donc, la peur de perdre. Et c'est comme ça qu'on perd. Quand on a peur de perdre, ben on finit par perdre.
On a peur de perdre, mais quand tu n'es pas formé pour ce haut niveau-là, tu ne gagneras jamais.
C'est ça. Bien sûr,
ils vont prendre l'expérience et dans peut-être l'année prochaine ou dans deux ans, s'ils refont une finale, ils vont se rappeler ce qu'ils ont vécu, ils vont voir que ça va pas être la même. Et là, tu n'auras pas la même équipe.
Il y a
s'ils gardent les joueurs.
Très forte pression. C'est ça qu'ils n'ont pas su gérer. Bah oui. Ils se sont laissés aller à leurs émotions, du coup, ils ont été tétanisés. Voilà.
C'est pas si simple que ça. Il réduit tout de suite la gestion des émotions.
Bon, très bien. On a fini avec le sujet de la GSK. Maintenant, bravo. Dans l'histoire, on a quand même oublié. Attendez, on a quand même oublié de féliciter le Raja Casablanca. Dans une finale. Tu l'as toujours dit, coach, on retient le nom du vainqueur. C'est le Raja de Casablanca.
Toi, tu en parleras même plus de ça.
C'est le meilleur qui a gagné, de toute façon.
Oui, voilà. Sur le terrain, il n'y avait pas photo, même si le score était serré de 2-1. Très bien, on va passer au sujet suivant.
Ton invité, là.
L'invité, c'est dans quelques minutes. Pour l'instant, le sujet suivant concerne...
Jusqu'à 20h, sur
Beurre FM. Attention, le sujet suivant concerne le premier grand trophée de Lionel Messi dans un match ultra agressif. La violence, elle était presque à son paroxysme dans cette finale Argentine-Brésil au Maracana. Heureusement, dans un stade vide, enfin, heureusement et malheureusement pour les Brésiliens. Mais. Il n'y avait pas grand-chose.
Il n'y avait pas grand monde, mais je m'attendais à un huis clos total. J'ai vu les Argentins qui étaient là aussi au stade. Donc.
Mais Sofiane, entre nous, as-tu vu au niveau du match, cette agressivité, ces actions à la limite du correct, quoi. En direct, un match de kickboxing, franchement, c'est affreux.
C'est simple, au bout de 11 minutes de jeu, tu avais déjà 16 fautes. Donc c'est-à-dire que à ce rythme-là, tu finis le match à...
Et c'est pas des petites fautes, je précise.
Non, il y avait une extrême agressivité. Là, j'ai une image qui me revient, c'est la cheville en sang du joueur de l'Argentine vers la fin du match. T'as Neymar aussi qui s'est fait accrocher 2-3 fois par les joueurs argentins. Ouais, c'était Brésil-Argentine, c'est toujours un événement de toute façon.
Et je crois qu'on a collé deux poils sur Neymar. En fait, il a pas lâché d'une semelle. Partout où il allait, il suivait.
Ouais, c'est exactement ça. C'est les Argentins ont gagné la finale. À l'italienne, j'ai envie de dire. Parce qu'on sait que...
Oui. les origines, on est d'accord.
Voilà, exactement.
Ma soeur, t'as suivi ça aussi ?
Oui, j'ai vu les grands moments. C'est vrai qu'on a eu les pronostics qu'on a vus depuis quelques jours, là, où on nous a fait apparaître le Brésil surmédiatisé, sûr de gagner. Moi, j'ai eu la chance de voir l'Argentine sur un quart de finale. Et j'ai vu qu'ils avaient une belle petite équipe, mais vraiment... Hein. Et quand j'ai entendu, je n'étais pas d'accord du tout avec les pronostiqueurs, les consultants.
Moi, je n'ai pas été convaincu ni en terre ni en demi par le Brésil.
Complètement. Ils ont une équipe banale, toujours avec l'histoire de Neymar. C'est toujours l'histoire de Neymar derrière. Et j'ai vu l'Argentine qui a salué Messi comme j'ai jamais vu. Hein. Ouais. Ils lui ont fait une standing ovation de les joueurs, le staff, tout le monde. Tu te rends compte, il a gagné sa première coupe. Il a 30 et quelques années, il joue depuis l'âge de 16 ans. Ça veut dire qu'il est fait tous les deux ans. Ça fait qu'il y en a 18 ou 20 qu'il a loupé, tu vois, qu'il a pas gagné.
Il a perdu trois finales.
Trois finales, il a perdu. Donc, il a gagné ce qui était pour eux le summum, quoi. En Amérique du Sud, c'est important, la Coupe...
Coupe América, bien sûr.
La Coupe América, et comme nous, ce soir, il y a la finale de l'Italie, on voit avec les parcours des gens, des uns et des autres. Mais bon, moi j'étais très content pour Messi. C'est bien parce que quand je regarde des matchs comme ça et quand je vois que la vérité apparaît, quand même, il y a des choses qui nous rassurent. On dit, tiens, on a vu les choses, parce que dans le match, il n'y a même pas photo. Hein. Moi, je pense que sur le match, et il joue au Brésil. Hein.
Oui, Marc, hein, oui.
Ils auraient dû faire rentrer le public. Mais bon, il y a la Covid. Tu sais que c'est la Covid parce que c'est un mot anglais qui dit, je ne sais plus le terme exact, voilà. La maladie, donc la Covid.
Oui, mais c'est des conneries, c'est le virus, c'est le Covid, le virus. C'est tout.
Mais,
ceci dit, tu as raison, parce que pour Messi, moi je disais que pour Messi, parce que si Messi avait remporté la Coupe du Monde, c'était toujours difficile de dire le meilleur joueur de tous les temps, parce que c'est des périodes différentes. Tu ne peux pas comparer des joueurs qui ont joué à des périodes différentes. Donc, ils ont été exceptionnels, mais vraiment, Messi méritait un titre international, c'est-à-dire avec son équipe. Et franchement, c'est un joueur hors norme. Donc, du coup, c'est très bien pour lui. Moi, j'étais très content que l'Argentine gagne le Brésil pour une fois.
L'Algérie bientôt, Copa América.
Moi, j'étais content.
Mais tu sais qu'en regardant cette finale, Nasser, moi j'ai eu un regret, parce qu'il y a la finale de l'Euro ce soir, c'est qu'on ait supprimé cette Coupe des Confédérations. Ouais. Parce que là, on se serait retrouvé à un an de la Coupe du Monde enlevé de rideau. On aurait vu des Algérie-Argentine ou des Algérie-Angleterre ou Italie. Ouais. Et on n'aura pas le plus, parce que la dernière édition c'était avant la Coupe du Monde 2018, on n'aura pas ce privilège-là la prochaine année.
Ça va être une belle finale en tout cas, malgré tout.
Angleterre-Italie.
Moi j'aurais préféré Espagne-Angleterre, mais bon, c'est Angleterre-Italie. Parce que les Italiens, le jeu des Italiens, beaucoup plu. Hein.
Dans le micro.
Je disais que le jeu des Italiens m'avait pas beaucoup plu la dernière fois. Ils avaient joué une première mi-temps complètement à côté de la plaque, alors que les Espagnols avaient la possession de balles, etc. Ils ont un jeu plus technique, etc.
C'est la piqûre italienne.
Oui, comme dit Nasser. Nasser, il soutenait l'Italie. Donc, du coup, je soutenais l'Espagne. Il a gagné. Il a raison. Il a dit seul le résultat compte. Voilà. Tu peux jouer, danser comme tu veux. Si tu ne marques pas, ça ne sert à rien.
Compris. Tu connais ça dans la vie tous les jours.
Le football, c'est un reflet de la vie aussi.
Nasser, toi, tu connais bien le football italien. Là, tout à l'heure, j'ai lu un dossier sur l'équipe, pour ne pas les nommer, parce qu'il faut quand même nommer ceux qui font ce travail, qui concerne notamment nous aussi, on a parlé des problèmes démographiques des pays européens. Donc, ça veut dire manque de joueurs. Aujourd'hui, on va aller chercher ailleurs. L'Italie a trouvé le filon. Le Brésil, c'est un pays de 300 millions d'habitants. Du coup, ils ont besoin de joueurs. Ils vont chercher ceux qui ont une ascendance même hyper lointaine au Brésil, et on leur fait un passeport italien pour rejoindre la Squadrazzurra. Merci pour la précision. Et pourquoi j'en parle tout de suite? Parce que déjà, il y a trois joueurs qui font partie de cette sélection, entre autres Jorginho, Emerson, et puis il y a un troisième joueur aussi. Et les Italiens sont prêts à... Comment on appelle ça? Les Italiens aujourd'hui sont prêts à aller chercher ces joueurs, parce que la femme italienne n'enfante pas beaucoup, et il y a un déficit démographique chronique.
Tous les pays européens.
Et du coup, on essaie de trouver ces joueurs. Et bon, la France, il y a notre émigration qui joue un rôle important.
Oui, tu es là-dessus complètement. Si ce n'est qu'aujourd'hui, l'émigration... Les problèmes de l'immigration, c'est un vrai problème, mais de fond. Hein. Là, on le traite comme ça par rapport au rapport des journalistes qui font du dossier scandale, pas plus que ça, mais dans le fond, il y a un vrai problème d'immigration. C'est-à-dire que le renouvellement de la population en Europe est un vrai sujet.
Bien sûr.
Et donc, par le biais des partenariats qu'ils font avec des pays, et par le biais des anciennes colonisations, et par le biais de leur culture, ils choisissent quand même leur immigration. Les Italiens, on sait qu'ils n'aiment pas trop les Blacks. C'est pas trop leur truc, mais donc ils vont choisir.
On a vu la sélection à l'Euro là.
Voilà. Oui, non, mais eux, c'est... Il y a les Anglais le font, les Italiens le font toujours pas.
100% made in Alpes.
Oui, bien sûr. Mais c'est ceux-là qui vont aller chercher des Argentins, qui ont aussi des consonances italiennes, puisque tu as beaucoup de.
Salut Argentin.
Oui. Et c'est des choix, mais bon, on va pas traiter le problème de l'immigration aujourd'hui. Il y a vraiment des choses très importantes à dire là-dessus, pour dire les réalités de la France d'aujourd'hui, et de savoir qu'aujourd'hui l'immigration est très 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 importante, et qui nous qui nous pose question.
Voilà. Nasser, on avait regardé les statistiques la dernière fois ensemble, je ne sais pas si tu te souviens.
Ah, bien sûr.
Un pays comme l'Italie, par exemple, je crois qu'on est à 1,12 enfants par femme et à un âge médian autour de 46 ans. Ouais. Ça veut dire qu'il y a autant tout d'habitants bien. Qui ont plus de 46 ans que moins. Et c'est un pays qui, tous les ans, en fait, perd 500 000 habitants, quoi, quelque chose comme ça.
C'est ça.
Alors que, par exemple, un pays, à titre de comparaison, un pays comme l'Algérie, c'est, l'âge médian, c'est 29 ans. Et on est autour de 3 enfants par femme. J'ai payé comme, un pays comme l'Éthiopie, on l'a regardé avec Nasser parce que je ne connaissais pas. L'Éthiopie qui fait 110 millions d'habitants a un âge médian à 18 ans. Ça veut dire qu'il y a 55 millions d'Éthiopiens, après la moitié, qui ont moins de 18 ans et 55 millions qui ont plus. Et chose étonnante, ce que j'avais dit à Nasser, c'est qu'en Algérie, l'âge médian, c'est 29 ans.
C'est fait.
Et au-delà de 65 ans, je crois que c'est 3% de la population.
Tout à fait.
Et c'est eux qui ont le pouvoir.
Mais c'est des vraies problématiques. Quand tu prends les chiffres parlent d'eux-mêmes, hein, de fait. Les chiffres, ils te disent tout. Mais après, on va enrober la discussion, on va essayer d'expliquer. Mais aujourd'hui, c'est que le problème, c'est que les vieux, ils vivent tard. Ouais. C'est vrai que la Covid est en train de faire le ménage, là, et c'est pas bien du tout.
Alors, ce qu'on va faire, Nasser, c'est que dans un instant, parce qu'il y a Hassan qui tient absolument à répondre à cette histoire du choix de l'immigration, notamment de ces pays européens, de par leur histoire avec ces pays. On revient dans un instant parce que lui, en tant que sociologue, justement spécialiste de ces sociétés dites migratoires, va nous donner son point de vue. Restez à l'écoute, on se retrouve dans un instant pour la troisième et dernière partie de cette première heure d'émission.
Foot de sport revient dans un instant. Jusqu'à 20h. Foot de sport sur Beurre FM.
Allez, on reprend le flambeau de cette émission. Cette fois-ci, je m'adresse au sociologue Hassan Zerraoui. On avait parlé, Hassan, de ces migrations,
oui.
Notamment. Bon, la France, elle a la chance d'avoir ce qu'on appelle des joueurs issus de ces anciennes colonies, principalement Afrique du Nord ou Afrique subsaharienne.
Oui, puis l'Afrique, les territoires d'outre-mer qui sont colonisés actuellement, évidemment.
Oui. Et du coup, les autres nations n'ont pas ces joueurs d'origine, comme on peut les appeler, hein, origine contrôlée ou non contrôlée, je n'en sais rien. Ce qui est certain, c'est que si on prend aujourd'hui l'Italie, elle va chercher des ascendances tellement éloignées pour trouver trace d'un Italien, d'un arrière-grand-père ou arrière-grand-mère, ou des fois par le biais de couples mixtes, oui, parce qu'il y a eu soit c'est l'épouse ou c'est la grand-mère de l'épouse, enfin machin. Pour eux, l'essentiel, c'était en fait d'arriver ni plus ni moins. Donner l'impression que nous avons des joueurs. Et au final, où sont ces joueurs? Allez, monsieur Zerraoui.
Oui, c'est-à-dire que l'Italie, bien sûr, c'est pas le déficit démographique n'est pas suffisant pour expliquer l'absence de joueurs quand même. C'est aussi les structures sportives, ce qu'on met en avant, etc. Mais là, ils vont les Italiens, tels que tu me le dis, ils vont recruter donc y compris vers la quatrième ou cinquième génération des footballeurs, c'est qu'ils jouent sur le domaine du symbolique. Ils pensent que là, il y a du loyalisme et ils se disent les racines. Alors que les racines à la cinquième génération, je me pose la question de ce qui reste lorsqu'on a tout oublié. Pour eux, c'est très important. Ils jouent sur le symbolique. Et le symbolique qu'utilisent pas beaucoup les sociologues. Du coup, ils vont chercher. Ils pensent que en prenant des descendants d'Italiens, même à la cinquième génération, ils ont toujours une sorte d'amour de l'Italie, du maillot, etc. Et c'est ce en quoi ils peuvent avoir raison et tort. Comment?
Tu as vu comment ils sortent l'hymne national, les Italiens?
Oui, oui, mais parce que.
Ça, j'ai jamais
oui,
vu ça,
mais
moi.
Ça, c'est la démonstration
bien,
connue. Latine, la Marseillaise, on la chante plus doucement parce que.
C'est rare de voir des situations comme ça.
Non, mais ils sont nationalistes quand ils s'expriment comme ça. C'est un des symboles d'un nationalisme fort. Et en tout cas, c'est un attachement. C'est aussi une façon de dire nous sommes Italiens, nous sommes l'équipe d'Italie, nous sommes les plus forts déjà. Le fait de crier comme ça, de chanter leur hymne national de façon forte, c'est pour dire voilà, nous sommes là, présents. Donc, vous voyez, comptez sur nous. Nous sommes là. Nous sommes les représentants, les véritables représentants de l'Italie, mère patrie, etc. Donc, je pense que c'est leur.
Tu penses pas? Non, mais ça ne pense pas que c'est devenu un outil ou un instrument pour instrumentaliser la notion de voix de presse, de voix médiatique,
en montrant
ça aux gens et en leur demandant aujourd'hui, parce que par le biais des politiques.
Mais bien sûr, c'est voilà. le fait de chanter l'hymne national ne signifie pas forcément bien que sûr. Chaque joueur adhère de façon tonitruante à cet hymne. C'est simplement, on est dans un cadre collectif, dans le cadre de l'imitation. Ouais. Du coup, ben écoute, on s'imite les uns les autres. Plus tu chantes fort, plus tu es crédible. Voilà, d'une certaine manière. Et c'est ça qui se passe dans
on
ces.
On valide le discours politique.
Oui, bien sûr. Non, mais il y a une dimension.
Lui chanter murmure, lui chante. Donc soit qui chante fort et qui.
Coach, quand on commente fort, pas le football, tu te tais.
Une précision de taille, c'est que l'hymne espagnol, par exemple, n'est pas chanté pour éviter les conflits entre les Catalans et les Castillans.
Ça c'est autre chose. Ça c'est une autre paire de manches. C'est comme les Kabyles en Algérie. C'est différent. Les Catalans, il faut être là-bas pour voir le Barça, comment il est soutenu par tout un peuple. Hein. Parce que derrière l'équipe de football, il y a la question identitaire. Donc, la question nationale, la question identitaire. Et du coup, moi, j'étais à Barcelone. Les cafés, tout, quand il y a un match du Barça, c'est absolument hallucinant. On ne voit pas ça du côté de l'Espagne, c'est-à-dire des autres parties. On ne voit pas ça du côté du reste de l'Espagne. C'est simplement parce que là, ils tiennent beaucoup à leur identité et le Barça incarne l'identité d'un peuple qui veut son émancipation, voire son indépendance. Oui. Et ça, c'est très important pour eux. Et comme on sait que, les clubs de football comme ça, tel le Barça, c'est des porte-drapeaux à l'échelle de la planète. Oui. On se dit, voilà, et donc plus on adhère, plus on dit, voilà, ben, ces Catalans, finalement, eh ben, ils méritent leur indépendance, puisqu'ils sont tellement unis, tellement cohérents, alors que quand on gratte, on voit, et il va y avoir des conflits, des luttes entre groupes sociaux, etc. Mais quand c'est se présenter à l'extérieur, on est tous unis. Oui. Du coup, on donne l'idée d'une nation, d'un peuple, qui mériterait donc d'être indépendant.
Vous savez, je vais lever mon doigt. J'ose même pas. Monsieur Hassel, je peux lever mon doigt aussi, je parle pas football là.
Non, mais je sais que j'ai affaire à l'un des meilleurs spécialistes du football en face de moi, le coach Nasser Sonjak. C'est de la famille, c'est comme la famille Dalton là. C'est le football. C'est une famille de football.
Je remercie mon ego, je remercie mon père.
C'est une famille de footballeurs. Non, mais Mohand, pour dire les joueurs, bon, c'est vrai que la France a la chance d'avoir ses colonies. Dans l'équipe belge, il n'y a pas beaucoup de Noirs, bien qu'ils aient colonisé le Congo, etc. Mais c'est la proximité aussi de la langue, de géographique, etc., qui joue un rôle important dans ces rapports qu'on appelle frères et ennemis, la France et l'Algérie, les deux peuples qui sont à la fois qui s'attirent et qui s'excluent.
Mais on n'est pas encore avec...
je sais, non, mais c'est bien. Mais
tu lèves un vrai problème, c'est que l'amour que les Belges ont avec leur ancienne colonie, on ne la voit pas.
Par contre,
la France, avec tous les pays qu'elle a colonisés, ils sont encore là, même si on nous parle de ce qu'on veut là, dans les dessous des...
Et malheureusement...
C'est une notion de folie.
Oui, c'est une histoire de folie, malheureusement, l'histoire du refoulé, en même temps, quand on gagne, on est français à part entière, et dès qu'on perd, on est français entièrement à part. Voilà. C'est quand même un peu malheureux, mais c'est comme ça se passe. Il y a encore des fous, des racistes qui écrivent des saloperies sur Mbappé parce qu'il a raté son penalty. C'est insupportable. Parce que c'est un joueur, c'est l'un des meilleurs joueurs de l'équipe de France et non pas de l'équipe du Cameroun. Comme ils disent, ils ont même dit, part au Cameroun, n'était même pas capable de travailler dans les champs de coton. C'est inacceptable. C'est insupportable. Et moi, ça me révolte. Parce que là, c'est le refoulé colonial qui est là. Seulement la France. La France dans son intégralité.
Platini a vécu ça, Zidane a vécu ça.
Oui.
Tous les joueurs ont vécu ça. Après, il y a des choix. Après, il y a des gens qui ont des choix.
Mais Zidane, quand il a donné le coup de boule, il était redevenu un jeune des quartiers populaires pendant un certain temps. Son image avait pris coup. Heureusement qu'il y avait Chirac derrière qui disait « je le soutiens » et puis plein de gens. Et puis Zidane, il avait un passé. Il avait un passé qui était, quand on pèse le passé et le présent, il y a quelque chose de lourd lourd. Il y a quelque chose qui pèse en faveur de Zidane, c'est que quand même les 1, 2, 3, les deux buts qui ont marqué l'histoire du football hexagonal, eh bien c'est quand même Zinedine Zidane. Mais c'est quand même quand
c'est
il y a
très lourd.
Oui
c'est
oui,
lourd
c'est coup de tête bien sûr.
Avec un joueur comme ça, quand tu donnes ça à des millions de gens qui eux regardent le football bête et méchant et qui voient que t'es le meilleur joueur du monde, que ouais. tu gagnes des titres partout, et t'as un comportement devant les gens.
Mais même lui, il s'était laissé ce jour-là aller à ses émotions. Il ne les a pas su gérer.
Pardon, c'était une finale de Coupe du Monde, hein, il faut le préciser. Hein.
Oui, oui, non, mais il n'a pas su gérer ses émotions ce jour-là. Et ça a coupé, bon, moi je pense, hein, ça a coûté la Coupe du Monde. Et il aura été, je veux dire, sacré deuxième fois champion du monde. Ça aurait été quelque chose d'immense dans l'histoire pour Zinedine Zidane. Mais moi je pense, j'étais dans une université d'été à Bréau, dans les Cévennes, et j'achète Libération quand j'arrive à Nîmes. Et Libération titrait Le Dieu en bleu. Et qu'est-ce que je me suis dit, ayant fait de la psychanalyse par ailleurs, eh bien je me suis dit, Zidane, il va devenir fou. Et je pense que le coup de boule, c'était pour rappeler, pour son inconscient, lui rappeler qu'il n'est pas Dieu. Et au contraire, ça l'a sauvé d'une sobre, parce qu'il a dit, si nous remportons la Coupe du Monde, je ne pourrai plus rentrer en France, je deviendrai fou. Ce sera la folie. Il n'a pas dit je deviendrai fou, il a dit ce sera la folie. Pour moi, c'est son inconscient qui l'a rappelé au principe de réalité, sinon c'était délirant. Et donc il a tapé ce coup de boule malheureux pour lui, malheureux pour la France, malheureux pour le football même, parce que c'est une image qui, venant d'un symbole comme lui, qui égratignait un petit peu et le football, et aussi les jeunes dits issus de l'immigration ou qui ont un rapport avec l'immigration directe ou indirecte.
Il faudra nous l'expliquer.
Oui, ah,
très bien. Alors, rapidement, pour finir cette première heure, dans quelques jours vont commencer les JO. Décision prise à huis clos.
C'est là. Je croyais que c'était dans un mois ou dans un an. Moi.
Non, c'est dans. Ouais, pardon, Sofiane, dans deux semaines, c'est ça.
23 juillet, il me semble.
23 juillet. Ouais. Non, mais attends, 23 juillet à huis clos. Décision prise, ça y est.
Ouais, à Tokyo, ouais. Mm-hmm.
Pas de spectateurs.
Business is business.
Ouais, ouais, voilà. Le business continue de tourner, mais par contre. Delta, le raté, ben, comme l'a dit Hassan Zerawi, il faut le laisser planer. Voilà.
Écoute.
Menace potentielle,
menace virtuelle, donc peur des gens, maintenir les gens dans la terreur, dans la peur, dans l'angoisse, et comme ça, ils ne bougent plus. Voilà.
Ouais, c'est
bon. Hein, c'est comme à partir du moment où on vous fait peur, quelqu'un avait dit, il y a pire que le pire, c'est l'attente du pire. Et c'est ce qu'ils nous font vivre avec la Covid-19, s'il vous plaît. Moi, ça me choque de dire au féminin, même si je respecte beaucoup l'égalité, homme-femme, et femme-homme, mais ça me choque qu'on dise c'est un virus, et tout petit en plus, et il met à genoux l'humanité. Alors, sans être complotiste, je me pose des questions.
Alors, tu me comprends pourquoi je l'ai appelé Baouche?
Oui, oui, bien sûr, c'est un baouche en Kabyle. Oui, c'est une petite bête, voilà, c'est tout. Oui. Toute petite. Selon une amie biologiste, elle m'a dit, c'est tout petit comme virus. Il met à genoux 7 milliards d'êtres humains. Mais c'est pas possible. Vu les connaissances accumulées, vu le savoir acquis, vu la technologie développée à ce point, etc. Comment un petit virus, il ne lui trouve pas de solution? C'est terrible. Il À chaque fois, il y a une nouvelle vague. Alors, quand il y a des vagues, donc, symboliquement, quand ils disent vague, on va être noyé. Non, on va être noyé. Parce qu'une vague, bon, ça peut passer. Une deuxième, ça peut passer. Troisième, mais quatrième vague, on va être noyé. Voilà, c'était au cinquième, peut-être. Mais voilà, il ne restera plus personne sur cette terre. Et ce sera l'année du cristal, je crois, un film qui on mettait depuis ce jour. La fin du monde.
Le jour de la résurrection.
Oui, le jour de la résurrection. Et voilà.
Bon,
et
quand... Allez, très bien. On arrive à la fin de cette première heure. Dans un instant, notre invité qui est venu ici spécialement avec son livre Le football des immigrés, Stanislas Frankiel. Il vient d'une région que je connais, hein, là-bas chez les Ch'tis. Moi, je suis un peu plus Picardie, un peu moins Pas-de-Calais, mais je connais bien la région au sud du Pas-en-Artois. On se retrouve dans un instant pour cette heure exceptionnelle à passer avec Stanislas Frankiel. À tout de suite.
Fou de sport revient dans un instant sur Beurre FM. 18h, 20h, Fou de sport. Avec Mohamed Marouf sur Beurre FM.
Comme promis, deuxième heure de Foot de Sport consacrée à notre invité Stanislas Frankiel, à qui je laisserai l'honneur plutôt d'être présenté par Nawel. Merci de te rapprocher de ton micro
oui.
Et puis de nous présenter notre invité. On va revenir sur ce livre qui s'appelle « Le football des immigrés ». France, Algérie, l'histoire, on partage aux éditions Culture Sportive, Artois Presse, Université.
Alors ce soir, nous avons l'honneur de recevoir Stanislas Frankiel, qui est maître de conférence à la faculté des sports et de l'éducation physique et de l'Université d'Artois, membre de l'atelier Sherpa, voilà, et membre aussi... en fait, engagé dans le milieu carcéral aussi, il faut le dire, hein, aussi, et voilà.
Très bien, alors.
Peux ajouter autre chose.
Ben, avec plaisir. Historien du sport, donc, et de l'éducation physique, et créateur de la première chaîne YouTube d'histoire du sport, dédiée notamment aux étudiants STAPS, qui s'appelle Temps de sport, TEMPS. Voilà, et donc, j'ai écrit un ouvrage issu du remaniement approfondi de ma thèse de doctorat consacrée à l'histoire des footballeurs professionnels algériens. Des années 1930 à nos jours, Artois Presse Université.
Alors, je vais commencer par la première question. Hein. J'ai la maîtrise, n'est-ce pas, de la machine, normal. Elle est toute simple. Pourquoi avoir choisi les footballeurs algériens, Stanislas Frankiel ?
Alors, pourquoi les footballeurs algériens ? Moi, je dois dire peut-être que j'ai été un peu bercé par une espèce de culture un peu maghrébine dans la mesure où ma nourrice était marocaine et que j'en garde un excellent souvenir. Mais pourquoi avoir orienté mes recherches depuis une vingtaine d'années sur l'Afrique du Nord ? Notamment parce que je me suis aperçu qu'à la période coloniale, donc en gros en 1957-1958, il y avait presque 40 footballeurs professionnels algériens qui évoluent dans les championnats, enfin dans les clubs de première et de seconde division. Ensuite, l'Algérie, ça a été le premier pays à faire appel aussi précocement et autant en nombre à des footballeurs binationaux pour défendre les couleurs de l'équipe nationale algérienne. Et enfin, troisième chose, je me suis intéressé à l'histoire de l'équipe du Front de Libération Nationale, la première équipe d'Algérie 4 ans avant l'indépendance. Et je suis le seul chercheur à avoir eu la chance de retrouver la quasi-intégralité des survivants de l'équipe du FLN, ce qui a impliqué un gros travail de terrain en France, donc des sources orales, des entretiens longs avec ces joueurs, toutes générations confondues, mais aussi en Algérie, où j'ai séjourné en tout à peu près 4 mois à la recherche de tous les anciens footballeurs professionnels que je pouvais, dans la mesure où ils avaient joué en France, en première ou en seconde division, et qu'ils étaient issus d'une famille musulmane, puisqu'il faut le rappeler quand même, le football n'est pas né en Algérie dans les années 30, il est né bien avant, à la fin du 19e siècle, avec les Européens d'Algérie, qui ont aussi fait qui ont écrit aussi une belle page du sport français et de l'équipe de France.
On reviendra tout à l'heure notamment sur ces fameux clubs confessionnels et surtout sur ce début du football que je qualifierais d'un petit peu d'apartheid au début avant que on commence à réellement à intégrer ce qu'on appelle les indigènes. Mais d'abord, je vais laisser le coach vous poser sa première question.
Moi, il y a juste une chose qui m'interpelle, c'est que vous choisissez les Algériens quand on sait que dans le Nord, il y a eu beaucoup de Polonais, d'Italiens qui ont marqué vraiment le football là-haut. On sait que Coppa vient de ce milieu-là. Alors vraiment, la pensée, c'est vraiment pourquoi l'Algérie, quoi. Vraiment, c'est il y a la Tunisie, il y a le Maroc, il y a des gens, et pourquoi l'Algérie?
Merci Nasser, et en plus, vous êtes dans mon livre, parce que j'ai eu le plaisir d'interviewer votre frère Yazid à Nice il y a une quinzaine d'années. Et d'ailleurs, le professeur Hassan Zerraoui aussi, ça me fait plaisir aussi de le rencontrer, parce qu'il est aussi dans le livre, évidemment. Tous les grands sociologues algériens et français qui traitent de l'immigration algérienne sont dans le bouquin, comme l'historien Benjamin Stora, avec qui j'étais en conférence tout à l'heure à l'hôtel de ville de Paris. Pourquoi ? Je crois qu'aussi, moi, quand j'ai démarré cette recherche, j'avais aucun ami à algérien. Et je crois que il y a un inconscient colonial dont a parlé le professeur Zerraoui ici. Il y a aussi un poids, quoi, un poids des clichés. Et moi, j'avais envie un petit peu, alors, qui est lié à la guerre d'Algérie, qui est lié à la décennie noire, qui est lié à l'image de l'immigration algérienne en France qui n'est pas forcément très positive. Et moi, j'avais envie un petit peu de traverser le miroir. Et quand j'ai démarré cette recherche, je connaissais aucun Algérien. Vraiment, personnellement. Ouais. Et donc, voilà. Donc, je me suis lancé. J'ai commencé d'abord à lire énormément, faire le tour de la littérature. Et ensuite, de prendre les contacts avec des joueurs et de prendre mon bateau. puisque j'ai fait la traversée en cabine, non même pas en cabine, en
comment fauteuil.
En fauteuil, bien sûr, en fauteuil.
On connaît bien, on a passé par là.
Marseille-Alger en 2006.
Quand tu as vu Marseille-Alger, quand tu arrives.
Ah bah la baie d'Alger exceptionnelle. Ah, voilà. Marseille-Oron, pardon, la première fois, et je l'ai fait plusieurs fois en bateau, après en cabine. Ouais. Et Marseille-Oron exceptionnel, Marseille-Alger. Et donc voilà, donc c'est un travail. Donc là, c'est, je vous l'ai dit, c'est le remaniement de ma thèse, mais qui se veut maintenant grand public. Et ça, c'est très important pour nos auditeurs. C'est que c'est pourquoi c'est grand public, parce qu'il y a des chapitres courts, parce qu'il y a énormément de photos, parce qu'il y a énormément de témoignages et de portraits. Et donc, je pense que tout le monde y trouvera son compte. Et je suis très content de voir aussi de venir vous le présenter ici aujourd'hui à Beurre FM.
Moi, j'allais lui dire. Mais en plus, ça va.
Chacun son tour, vous inquiétez pas.
Oui, on a.
Simplement, moi, je voulais dire, je félicite mon cher jeune collègue. Voilà, dit qui est historien. Moi, je suis sociologue, donc ça se complète. Et moi, j'ai pas lu le livre, malheureusement, avant de venir, mais je l'ai parcouru rapidement et je regardais surtout les références, la bibliographie, tout ça. Moi, je trouve que c'est un livre super bien documenté, solide. Il a donc des assises importantes. On voit qu'il y a une démarche réellement scientifique et que dans ce livre, il popularise puisque l'écriture, enfin, se lit facilement. Je me souviens que quand j'avais soutenu ma thèse, on m'a dit « Votre français se laisse lire ». Eh ben, c'est ce que je pourrais dire de ce livre. Il se laisse lire, donc c'est facile pour les gens qui ne sont pas forcément des spécialistes, ni du grand public, mais qui sont amoureux du football, et surtout qui veulent aussi connaître, au-delà du football, les rapports entre la France et l'Algérie, leur histoire. Et le football, c'est quelque chose d'important, parce que il unit, il rassemble, il permet à l'autre d'être traité comme égal. Et donc, c'est important. Parce que l'immigration a toujours été perçue, vécue, représentée comme une immigration de main-d'œuvre et donc qui n'apporte rien vraiment à la société. Et on exclut tout l'apport culturel, le couscous étant devenu le plat national français. Alors, donc on enlève toute la dimension qui est culturelle ou sportive, comme c'est le cas. Et moi, je trouve que c'était très bien de faire ce livre, de faire le point. Ça permet à tous ceux qui sont dans le fantasme, dans une immigration négative, c'est-à-dire qui n'apporte rien à la société, de voir quand même que grâce à ces joueurs et grâce à cet apport, eh ben on va voir des choses positives, on va voir qu'ils participent à la construction d'une France plurielle et que c'est important de le savoir et de le dire.
Merci professeur, juste un petit mot pour vous dire que des travaux existaient déjà sur l'histoire des élites algériennes,
oui,
politiques,
oui, ça,
en
c'est
France,
oui.
Culturelles et sportives. Oui. Il y avait quelques oui. journalistes oui. qui s'étaient emparés un petit peu de la question, mais souvent de manière romancée, c'était oui, souvent des dictionnaires, etc. Là, j'ai vraiment voulu raconter de manière chronologique cette histoire méconnue, passionnante, et vous l'avez précisé, qui s'appuie aussi sur un appareillage méthodologique, c'est-à-dire beaucoup de lectures, mais aussi empirique, beaucoup de sources, beaucoup d'entretiens. En France, en Algérie, une centaine d'entretiens dans ce livre. Et voilà,
ça vous a pris combien d'années ?
En tout, ça m'a pris 15 ans. C'est-à-dire que j'ai soutenu ma thèse de doctorat. J'ai 2005. Voilà, 2005-2009, je soutiens ma thèse de doctorat en 2009. Je l'ai un petit peu laissé tomber. J'ai refait des entretiens complémentaires jusqu'à arriver de 2018. Jusqu'à la publication en 2021. Et pour l'instant, il y a eu un très bon écho, même dans la presse, surtout des sportifs eux-mêmes qui sont hyper contents du résultat final.
Moi, j'ai deux questions qui m'interpellent. Est-ce que c'est voulu, est-ce que le fait que Karim Benzema réintègre l'équipe de France et que c'était le moment opportun? Parce que dans le titre, pour moi, dans le titre, il y a deux choses. Il y a le football et les émigrés. Donc quand tu joins les deux, on sent qu'on est dans le sport et on est dans la politique. Quand on parle d'immigrés, tout de suite, on est dans quelque chose qui est très sensible. C'est la première chose. Est-ce que vous pensez que le fait que Karim Benzema réintègre l'équipe de France joue... est-ce qu'il y a un chapitre réellement sur Benzema et tout ce qui s'est passé avec Deschamps là ? Est-ce que ça a été mentionné ou pas ?
Alors, ça n'a pas été mentionné parce que le bouquin a été finalisé, il y a 6 mois. Donc, on était, je pense, ici autour de cette table, on était loin d'imaginer que Benzema, tous, c'était la surprise du chef, allait revenir en équipe de France avec une équipe championne du monde en titre. Mmh. Mais par contre, malgré tout, on sait que On sait que Deschamps, c'est un froid, c'est un gagneur, c'est un cynique qui laisse rien au hasard. Donc sur le plan sportif, on a vu que ses choix, ils se sont confirmés. Ont porté leurs fruits. Par contre, sur le plan politique, c'est fin. Parce que c'est un message d'apaisement, il me semble, quand même, de la part d'une France, la France des terroirs, la France des champs, la France de Deschamps, vers la France des quartiers. Et je crois qu'on a vu on n'a jamais vu autant de maillots de l'équipe de France de Benzema, autant vendus. Et c'est un message d'apaisement et quelque part un petit peu de réconciliation. Alors, on aurait aimé que ça aille beaucoup plus loin, ça a pas marché avec Karim.
Nasser ?
Oui, oui. Moi, je voulais aller encore plus loin, mais dans ce choix, qui est, j'ai pas lu le livre, donc je suis un petit peu frustré. Mais je me dis, parce que c'est très ambigu. Moi, je connais bien l'Algérie, je connais bien la France, je connais les rapports avec toutes ces personnes-là. On sait les comportements qui ont été tenus par des joueurs à une certaine période, qui ont su se mettre au service du FLN quand il a fallu, quand il n'aurait pas fallu. Et ça a été compliqué, ça n'a pas été aussi simple que ça. Et qu'aujourd'hui, quand on voit comment Zidane, l'équipe de France, quand on voit les cas de... on dirait peut-être Ben Arfa, mais on dira le petit joueur qui est parti au Bétis, là, notre ami lyonnais. Fekir. On voit le petit Aouar. On voit les comportements que... On dirait que, tu sais, quand on voit ce qui se passe là, quand on lit ça, on se projette, nous, sur ce qu'on voit... Et on voit des mômes comme ça qui flambent à un moment, et on voit tout de suite la main de, j'allais dire, Deschamps ou d'Aulas, qui va récupérer le joueur, qui le prenne et qui le lâche, qui le prenne là. Ils ont pris Fekir, ils l'ont lâché, ils ont pris Aouar, en fin de compte, tu ne nous intéresses pas. Il y a quelque chose qui est sous-jacent. C'est toujours cette, on va pas parler de la botte des colons ou, on est toujours quand même sous influence de tout ce qui se passe là. Et c'est toujours, on est nous, toujours, dans cette perpétuelle frustration où on a l'impression de ne pas être libéré de ce qu'on vit là aujourd'hui, même avec des grands joueurs, même Black Blanc Beurre, avec tout ce qu'on a vécu, on se rend compte qu'on est encore toujours dans cette logique. Moi, je peux en parler parce que je suis dans mon club, là, je suis toujours en contact avec le social sur Paris, et j'ai toujours cette impression qu'on est toujours sous emprise et qu'on ne nous lâche pas, quoi, on ne lâche pas. Surtout, après, je me suis posé la question sur le choix de ce livre, parce que c'est quand même marrant que. Tu es quand même un garçon qui est né en France. Il n'y a pas eu de co-auteur, quoi. Il n'y a pas eu un co-auteur avec toi, algérien. Ah, tu as une préface, voilà.
Préface de l'historien Paul Ditchy, postface d'Ali Fergani, capitaine 82.
Oui, Ali Fergani, que je connais très bien. Et je me pose la question vraiment, est-ce que c'est pertinent ou il fallait aller plus loin? Parce que je pense que c'est très documenté, ça va être très intéressant. Mais je pense que la suite, faut parler.
Après, Nasser, le...
Vas-y.
Oui. Allez-y, bon.
Non, juste, c'est vrai que vous connaissez bien voilà, le football depuis des années, avec toute la famille, l'Olympique Noisy-le-Sec, mais vous savez très bien que le football est un milieu conservateur, et j'ai coutume de dire que le pouvoir est aux hommes blancs. Le pouvoir est aux hommes blancs. Et vous voyez très bien, on pourrait parler de la problématique de la reconversion des joueurs. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Combien? Pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'entraîneurs maghrébins ou plus que ça, noirs, là, qui entraînent en D1, en Ligue 1, en Ligue 2? Pourquoi? Vous savez très bien que c'est un milieu comme ça. C'est un milieu fermé. Alors c'est bien, votre frère est à la FFF, peut-être que ça va faire bouger les lignes. Mais ce que je veux vous dire, c'est que des rapports aussi de domination s'expriment, de domination parfois post-coloniale, peuvent s'exprimer à travers le foot. Et moi, je le vois très clairement, quand on a une équipe d'Algérie qui est composée à 60% de joueurs nés en France, on voit bien que, 70%, ça dépend des moments, on voit bien que des relations, en fait, que l'Algérie est toujours sous dépendance sportive. Et ça, c'est formidable. On voit bien que le colon est parti, mais il a laissé derrière lui des traces, il a laissé derrière lui sa trace. Et ça, c'est ça, franchement. Donc voilà, c'est un petit peu ce dont je parle du bouquin, qui part des années 30 à nos jours, avec des interviews qui vont de Djamel Belmadi, qui est un des plus jeunes joueurs que j'avais rencontré. Il était encore pro à Valenciennes en 2007. Et le plus vieux joueur que j'ai rencontré, ça, je le dis parce que j'aime bien le mentionner, je l'ai rencontré à Oran. Il était footballeur au Havre en 1937. Je l'ai rencontré en 2006. Je l'ai rencontré 70 ans après sa carrière. Et ça, c'était exceptionnel. À la fin de chaque chapitre, il y a le portrait d'un joueur emblématique. Donc c'est lui, c'est Drawa El Habib. Il y a le portrait emblématique de Mekloufi. Il y a bien sûr Nordine Kourichi, bien sûr Nasser Guedjoura, bien sûr Abdallah Liejon Medjadi, qui jouait sous deux noms, que j'ai retrouvé à Lons-le-Saunier. Donc voilà.
Je pense que le livre est enrichi par des photos aussi. Il est important parce que Bourdieu, grand sociologue devant l'Éternel, avait aussi l'habitude de prendre des photos quand il faisait des enquêtes ethnologiques, quand il est parti en particulier en Kabylie, et de manière générale.
Une photo vaut mille mots. C'est ça ?
Oui.
Une photo vaut mille mots.
Non, il était photographe, il prenait des photos et les photos sont laissées de côté. De temps en temps, il met une photo, mais en vérité, les photos parlent. Les photos sont là, c'est des témoins au niveau de l'histoire, presque vivants, je dirais, même si à distance, etc. Mais pour revenir au cas de Benzema, Benzema, c'est un joueur emblématique. Sa carrière, le fait que. Moi, je me souviens du match Portugal-France, la finale 2016. J'étais dans un restaurant et j'ai pas vu une seule personne, et pourtant c'était des Français, des Franco-Algériens, une seule personne applaudir l'équipe de France. Parce qu'ils ne se voyaient pas représentés par un joueur. Et du coup, contrairement à 1998, où il y avait Zidane, et là, les jeunes des quartiers soutenaient pas tellement l'équipe de France, mais le fait de voir Benzema, du coup, Deschamps, c'est vrai, il a réussi un coup de maître, parce qu'il a non seulement refait lien avec les quartiers populaires, mais en même temps, il s'est dit, il faut rassembler les gens de cultures différentes. Il a bien compris, en faisant appel à des Africains de l'Afrique subsaharienne. Et comment ?
Macron qui a fait le travail.
Peu importe Macron.
On a l'impression que c'est Deschamps qui a pris le travail.
Mais peut-être Macron derrière, mais je ne sais pas. Moi, nous, on voit ce qui est. Nous, on parle de ce qui est visible. Après, l'invisible, c'est une autre histoire. Les enjeux cachés. Les enjeux cachés, il faut aller les chercher. Mais je peux dire que là, au contraire, malheureusement, ça s'est vite terminé avec la nouvelle Coupe d'Europe, là où il y avait Benzema. Et ben, les jeunes étaient concernés, suivaient les matchs, étaient mobilisés, soutenaient l'équipe de France parce qu'ils se sentaient représentés comme une sorte de miroir qu'on leur renvoyait d'eux-mêmes. Alors quand ils voient personne issu de cette émigration, et ben, ils se sentent complètement marginalisés et rejetés. Voilà.
Très bien, écoutez, super. On arrive à la fin de cette première partie consacrée à notre invité Stanislas Frankel. Dans un instant, moi je vais lui poser des questions notamment sur sur le début de ce football de colonisation. Comment on a pu intégrer ce qu'on appelait les footballeurs indigènes petit à petit, quand on sait que c'est le bastion du football algérien n'est pas à Alger, contrairement aux idées reçues, mais dans l'Oranie. À tout de suite.
Foot de sport revient dans un instant sur Beurre FM. Jusqu'à 20h. Foot de sport sur Beurre FM.
Retour sur le plateau de cette émission en compagnie de notre invité Stanislas Frankel. Je vous le rappelle, à l'occasion de l'apparition de son livre consacré aux footballeurs algériens, on va dire le football, ce qu'on appelle des immigrés France-Algérie. Il y a beaucoup de photos d'ailleurs, moi j'ai beaucoup aimé, et puis je retrouve notamment des joueurs, même ceux du FLN que j'ai eu l'occasion de voir dans les années 90, 2000, tout ça. Notamment avec Nasser quand on allait du côté du stade Jean Bouin là-bas, donc stade du Racing, c'est ça Nasser. Et puis en même temps j'ai eu l'occasion aussi une fois de faire ici l'interview par téléphone, puisqu'il à l'époque il était à Nîmes, je sais pas s'il est encore de ce monde, c'est monsieur Defnoun, hein. Ouais, voilà, toujours là. Franchement ça fait plaisir, et d'ailleurs il m'a même dit que si jamais je venais sur Nîmes et qu'il allait m'accueillir chez lui, à domicile. C'est quand même extraordinaire, ce côté toujours accueillant de nos footballeurs. Mais là, Stanislas Frankel, ma question va sur cette origine du football, cet enracinement. Comment on a pu intégrer, par exemple, les indigènes. La France est entrée en Algérie en 1830, mais le football... Bon, c'est tout le monde, on sait qu'il a été inventé par les Anglais vers 1860-70, et que petit à petit, il commençait à arriver dans la société, et que pour faire face à ce qu'on appelait la bourgeoisie de l'époque, qui avait ses sports favoris, genre, on va dire, tennis, rugby, par exemple, tous ces sports dits d'élite, il fallait un sport populaire. Et puis, ben, on commence par le foot. Sauf que là, le foot, ce n'était pas que pour les bourgeois. Donc, il fallait trouver des clubs. Et ces clubs-là étaient confessionnels.
Attends. Et merci, Mohamed, mais vous allez un petit peu vite. Tout commence à la fin du 19e siècle. Ouais. Alors déjà, il faut dire que le sport ou le football n'est pas la première pratique qui va être importée depuis la métropole. Bien avant, il y a bien sûr eu la gymnastique patriotique, notamment après la défaite contre la Prusse en 1870. Et la gymnastique était déjà présente en Algérie. Alors ce qui se passe, on est à la fin du 19e siècle, notamment par contagion, par proximité géographique, par des liens commerciaux, des échanges, des premiers clubs turbulents, des clubs d'étudiants, de bourgeois européens vont se former en Algérie. Alors, on voit alors à ce moment-là, rares sont les clubs, on va dire, ou des clubs de foot réservés aux musulmans, mais malgré tout, il y en a qui apparaissent dès 1910-1920, que ce soit à Oran, à Alger, notamment à Constantine. Alors, je ne sais pas si le professeur Zeraoui connaît les travaux de feu Jamel Boulebier, qui était du Crask d'Oran, qui a travaillé sur, en gros, essayer de comprendre qui étaient ces premiers joueurs musulmans qui participaient à des clubs de foot, quoi, qui les créaient. Et ils venaient tous de, ils avaient tous un point commun, ils venaient tous de familles de notables, hein, musulmans, algériens, quoi, voilà, lettrés, francophones et urbains. Alors, progressivement, on va voir que dans les années 20, de plus en plus de clubs musulmans vont se créer. Vous connaissez 1921, le Mouloudia Club d'Alger.
Eh oui.
Ce sont des clubs qui, à la base, n'avaient pas du tout de vision indépendantiste. Pas encore dans les années 20, c'est encore trop tôt. On était plutôt encore dans le rêve d'une intégration. Mais ça se fera pas. On a, en gros, une structuration du championnat algérien qui est en lien avec le championnat français qui se professionnalise à partir de 1932, qui est historique, puisque dans cette structuration, il va y avoir déjà des premiers joueurs européens d'Algérie qui vont aller jouer dans les clubs français. J'en ai cité, il y a Aznar, par exemple, etc. Il y en a d'autres. Villaplane, qui sera le capitaine de l'équipe de France olympique en 1930 en Uruguay. Malgré tout, une structuration qui monte. D'un côté, les clubs européens d'Algérie, richement dotés, des clubs du Colonna, comme le Racing Universitaire Alger. De l'autre, des clubs musulmans bien moins dotés, qui ne reçoivent pas de subventions et qui essayent de faire arme, qui essayent de rivaliser, en fait. Et progressivement, le sport, comme le scoutisme, professeur Zeraoui le sait bien, c'est un lieu de construction du nationalisme algérien. C'est un lieu où on va apprendre des chants, où on va apprendre des cours de religion, où on va commencer à se créer cette idée d'Algérie algérienne. Et on a des rapports de renseignements généraux, bien étudié par le politologue algérien Youssef Fates, qui était professeur à Nanterre, qui a bien étudié en fait ces derbies entre les clubs musulmans et les clubs européens d'Algérie. Des derbies ultra chauds, où là, il y avait parfois des voitures qui étaient jetées dans les ports, des blessés, parfois des morts. Et en fait, on peut en rire, mais c'était grave. C'était grave. Il y a même eu des matchs qui ont été interdits. En 1956, le championnat algérien, sur demande du FLN, parce qu'il y a eu un problème notamment avec l'équipe européenne de Belabès, le championnat algérien s'arrête. Et donc on voit une montée en puissance et une instrumentalisation politique par le FLN du football qui arrive, avec notamment des bombes qui sont posées pas simplement dans le Milk Bar d'Alger, mais aussi dans des stades où il y a des morts. On voit qu'à la sortie de la finale de la Coupe de France 57, Ali Chekal, qui était proche du gouvernement algérien, se fait assassiner. Il y a Rachid Boudjedra, qui avait écrit Le vainqueur de la Coupe. Très beau roman, très bien écrit, que je cite aussi dans le travail. Et donc, on voit bien que le football commence à être, de par sa vitrine mondiale, commence à être utilisé par les indépendantistes jusqu'à avril 58, où ce sont les premiers départs d'une dizaine de joueurs vers Tunis, dans la plus grande incertitude, pour créer la première équipe nationale algérienne à l'appel de la Fédération de France, du FLN.
Et pas n'importe quel joueur, hein.
Mekloufi, Zitouni, internationaux français, Bentifour, international français, avec Roy, avec Boubaker. Monaco va perdre 5 joueurs. Voilà, donc on a aussi un joueur qui est arrêté par la DST à Nice, Hassan Chabri, qui était aussi de Monaco. Et donc moi, j'ai eu la chance de retrouver ces joueurs. On a leur témoignage exclusif dans le bouquin. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a 4 vagues de départ. Jusqu'en novembre 60, avec ensuite les Zouba, les Yora Maouche, il y aura les Defnoun, Bourichak, dont on a parlé. Et une trentaine de joueurs va se rejoindre à Tunis pour faire au total 83 matchs, 57 victoires dans 14 pays, notamment socialistes.
Très bien. Alors,
je bois les paroles, hein, je me posais juste une question, je me dis, mais quand on fait ce travail-là, on en sort comment ?
On en sort en 2009, quand j'ai soutenu ma thèse de doctorat, qui est d'ailleurs sur la chaîne YouTube Temps de Sport pour les passionnés. Ils peuvent voir, j'ai filmé la soutenance. Attends, excusez-moi, le son n'est pas forcément bon, mais il y a toutes les images. On en sort épuisé. On en sort épuisé, fatigué, rincé. On en sort avec un petit peu l'envie de fatiguer. Bah, vous savez ce que c'est, hein, de soutenir une thèse, de tourner la page. Et alors j'ai continué un petit peu à travailler sur les migrations de joueurs, notamment camerounais en Europe, et aussi des agents sportifs, dont l'histoire est liée à l'Algérie et à la France, puisque le plus gros agent français, c'est Alain Migliaccio, qui est un pied noir. Il y avait Larios aussi, qui est un pied noir, ça c'est important. Il y avait Charley Marouani, que vous connaissez, Tunisie, Madar, premier agent de Zidane. J'en parle aussi dans le bouquin. On en sort fatigué. Puis après, je me suis installé dans le nord de la France et je me suis dit qu'il fallait compléter par des entretiens complémentaires, notamment de femmes de joueurs, d'enfants de joueurs. Et puis, on a envie de faire connaître son travail. Ça, c'est une envie que j'ai toujours eue. Je m'en souviens quand j'étais tout seul en Algérie, dans les taxis collectifs, vous connaissez les 504 jaunes, tout seul, j'allais à Sétif voir Kermali, l'interroger, etc. Je me disais, non, mais là, je suis tout seul. Mais après, le travail solitaire de l'historien ou du chercheur s'ouvre maintenant le temps magique du partage. Et ça, c'est exceptionnel.
Alors, quels sont les moments les plus croustillants de votre travail d'investigation? Les joueurs qui vous ont le plus marqué, avec qui vous êtes posé longtemps et qui se sont vraiment ouverts à vous pour vous raconter leur parcours.
En fait, moi j'ai eu la soixantaine de rencontres, notamment Yazid Sanjak, j'ai que des très bons souvenirs. En France ou en Algérie, j'ai été frappé par l'hospitalité sincère des champions. Qu'on doit quand même nuancer, enfin qui est plutôt à l'opposé, j'ai quand même subi, il faut le dire, une indifférence de la Fédération algérienne de foot ou même de la FFF ou du ministère de la Jeunesse et des Sports, mais l'hospitalité était forte. Après, les joueurs avec qui j'ai le plus gardé contact, il y en a deux que vous connaissez bien ici, il y a notamment Nasser Guedjoura et il y a Zahir Kedadouche, ancien footballeur pro devenu ambassadeur de France. Et avec notre association Nouveau Regard Network, on fait des conférences dans les prisons depuis maintenant 10 ans. Et ils viennent raconter leur parcours exceptionnel. C'est l'occasion de parler d'immigration, d'intégration, d'exclusion, de rapport à la France, à l'Algérie, de la binationalité. Et ça, c'est vraiment des moments. Alors, eux deux, plus ceux avec qui je suis souvent très, très en contact, Nordine Kourichi, le grand Nordine, né en 1954 à Austricourt. Et enfin, Chérif Oudjani, dans la mesure où je travaille, voilà, bien sûr, donc j'en parle, Chérif, dans la mesure où je travaille à l'UFR Stabs de l'Université d'Artois, à Liévin, donc tout près de Lens, où se trouve le fief familial où son père Ahmed a brillé, et c'est encore 50 ans après le meilleur co-buteur de l'histoire du RC Lens avec Marianne Wisniewski.
Alors pour dire quand même cette histoire de famille, c'est vrai, ici en France, on connaît les Sanjak, on connaît les Belkebla au Pervilliers, les Oudjani
à Lens. Les Guedjoura également.
Guedjoura qui est arrivé un peu, c'est vrai, parce que Nasser, en fait, n'était pas arrivé le premier dans sa famille. Hein. Je crois que c'était le deuxième à être arrivé en France, contrairement à d'autres familles qui étaient déjà établies en France depuis longtemps. Hein. Qui ont eu leurs parents qui ont été dans la Fédération Félène de France, mais par la suite, ils se sont retrouvés à être des enfants issus de l'immigration, même s'ils ont aujourd'hui la soixantaine, hein, un peu comme nous, quoi.
Tout à fait. Mais il faut quand même distinguer un Kourichi des Kedadouche d'un Nasser Guedjoura qui arrive en 84, qui a déjà 30 ans, qui arrive à La Roche-sur-Yon, même si son grand frère, il avait tenté le coup une dizaine d'années avant, j'en parle à Beauvais, où son frère jouait.
Oui,
en gros, vous savez très bien, j'en parle dans le chapitre 5, l'étatisation du football algérien de 62 à 82, où en gros, on lui a demandé gentiment de revenir et d'intégrer l'équipe nationale militaire, où en fait, à l'époque, on ne discutait pas, hein, dans l'Algérie de Boumediene, hein, et surtout dans l'Algérie sportive de Rachid Mekloufi, qui tenait d'une main de fer tout ce sport algérien avec ses copains, les frères Soukane, que j'ai rencontrés également. Donc on peut distinguer ce parcours d'un Kourichi, d'un Guedjoura, et on voit des familles, et pour info, Oudjani, moi, à ma connaissance, vous allez me dire peut-être le contraire, c'est trois générations de joueurs. Oui, il y a Ahmed, il y a Chérif, et il y a le petit-neveu Adam Oudjani, qui a aussi signé au RC Lens. Et ça, c'est exceptionnel.
Oui, c'est un savoir-faire familial qui se transmet.
Se transmet les valeurs du foot.
Parce que les enfants sont élevés dans le foot, dans l'amour du foot, etc. Donc après, regardez les enfants de Zidane, ils sont tous footballeurs. Parce que le père leur a transmis l'amour du football, le savoir-faire, etc. Du coup, ça crée effectivement quelque chose. Et puis surtout, c'est une forme d'intégration collective dans un ensemble plus vaste. C'est ce qui se passe à Lens, c'est ce qui se passe ailleurs. Et chaque fois qu'il y a des familles, ben, du coup, elles sont bienvenues dans la ville. Ils sont intégrés vraiment, ils font partie du paysage.
Est-ce que le parallèle a été fait entre les footballeurs, tu vois, qui ont réussi, et les gens lambda, les gens normaux qui ont passé une émigration où eux, ils ne sont pas sentis.
Oui, 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 mais ça.
J'allais dire. Intégrés dans des normes et des valeurs que la France voulait leur donner, ou pas. Ouais. Est-ce que le football a été un prétexte pour beaucoup de ça? Parce que c'est aussi ça le fond du problème. Savoir est-ce que ce qui s'est passé réellement sur les joueurs football, parce que j'en connais aussi beaucoup, tu en citais beaucoup, j'en connais aussi beaucoup, qui ont vécu quand même des choses très importantes dans leur vie de tous les jours, en tant que joueurs, où ils ont vécu des salaires très médiocres, ils habitaient dans des trucs de fous, dégueulasses, trucs de fous. Il a fallu vraiment la fin de carrière, ou à un moment. Un repli, tu disais une chose très importante, tu parlais de qu'est-ce qu'ils ont fait après le football. Et ça, à part Zidane pour l'instant, que je vois qui sort, je vois tous ces anciens joueurs là, qui ont fait une carrière professionnelle, ont du mal vraiment à émerger ou à exister, ou à coexister. Et ça, c'est aussi. Oui, non, mais au-delà de l'oubli, c'est que qu'est-ce qu'ils ont fait, est-ce qu'ils ont préparé, pas préparé, ils n'ont pas préparé du tout. Et pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas prêts. Parce que l'idolâtrie chez nous, c'est quelque chose d'énorme. Et du jour au lendemain, tu n'as plus rien. Ben aujourd'hui, tu te retrouves avec des gens, et je ne vais pas citer de nom, parce que à se faire aller dans des endroits, dans les grands hôtels à Alger, pour se faire payer à manger. Là, aujourd'hui, là.
Ouais, mais je vous crois, parce que j'en ai vu. Donc,
voilà. Ouais. Ils se font payer à manger par le serveur, par les gens là, et des très grands joueurs. C'est-à-dire qu'à un moment, la reconnaissance aussi de ces gens-là, des gens qui sont. N'existe pas, ou pratiquement pas. Mais si ce n'est qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire, est-ce que c'est ce monde-là de la réussite, parce que c'est une certaine réussite. Est-ce qu'il y a une reconnaissance derrière?
Bah vous savez, moi je me suis intéressé à une élite sportive. Ouais. Il y a à peu près 500 footballeurs professionnels des années 30 à nos jours. Il y en a pas beaucoup. Ils ont tous, comment dire, moi ce qui me choque, ce que vous me dites me fait penser à l'expression du grand sociologue algérien Abdelmalek Sayad qui dit l'immigré est une force de travail révocable à tout moment. Bah, c'est exactement pareil dans le sport. Vous marquez plus de buts, bah, vous rentrez dans votre pays, vous marquez plus de buts, on vous oublie. Vous marquez plus de buts, vous préparez pas votre avenir en passant des diplômes ou en passant un examen ou une formation. Bah, c'est terminé. C'est un monde qui est comment dire où le taux d'éviction déjà pour rentrer, vous le savez, est très très élevé. C'est très difficile. Mais pour sortir, on en sort également très facilement. Mais vous regardez la tête de l'UNECATEF, c'est pareil. Hein, la diversité est peu présente à l'UNFP, c'est pareil. Donc il y a tout un travail de fond qu'on attend, qui devrait être fait.
Encore une fois, ça, effectivement, sur cette histoire de reconversion, c'est quand même dramatique aujourd'hui lorsque ces anciens joueurs arrivent, on va dire en fin de carrière. Pour la plupart, moi c'est un constat que j'ai fait, ils se retrouvent à suivre des formations à répétition pour se retrouver finalement à être des adjoints dans des petits clubs, mais pas dans les grands. Il suffit de prendre aujourd'hui dans le championnat de France, Ligue 1, Ligue 2, voire le National, et vous allez calculer le nombre de joueurs issus de la diversité qui sont entraîneurs en chef. Il n'y en a quasiment pas.
Il n'y en a pas. Oui, il y en a très peu. C'est une piste de recherche que j'aimerais bien mener à l'avenir. Donc, si parmi nos auditeurs, il y a des étudiants qui ont un niveau master ou qui voudraient faire des recherches sur l'histoire du sport ou du football algérien, ils peuvent me contacter à l'université d'Artois. On pourra envisager des projets. Ça a déjà été fait. Hein, j'ai déjà eu des contacts depuis l'Algérie. Donc, aussi mon travail, je pense qu'il intéressera toutes celles et ceux qui connaissent de près ou de loin l'amicale des Algériens en Europe. Puisque j'ai eu la chance d'étudier leurs archives au Centre culturel algérien de Paris, et notamment la mise en place de cette fameuse sélection que vous connaissez, Nasser, la sélection des beurs des immigrés, avec un personnage peut-être que vous avez envie de nous parler, c'est Nadir Bendrama, Ben Gourmet.
Oui, je connais. Tu portais la machine à laver le frigo à l'aéroport. Des trucs. Mais non, mais c'est lui qui a quand même introduit ça. Oui. Il a organisé des vrais matchs, attention. Hein. Il a amené les joueurs d'ici, nous, on y était. Oui. Et en face de toi, c'était le grand Mouloudia, le grand Ned. Tu arrivais dans un stade où il y avait 50 000, 100 000 personnes, archi-con. Et on faisait les immigrés contre les locaux. Et en ce temps-là, ils se baladaient, les mecs, en face de toi. Hein. Oui. Ah bah oui, t'en prenais 5 tous les jours, tu rentrais, tu reprenais l'avion. Ça aussi, c'est une forme de. Toujours de ramener. La personne qui part, parce que c'est ça aussi dans le livre, je sais pas si, mais la notion du départ du mec qui est en Algérie qui part en France, cette logique là est énorme. et la logique du retour est encore pire. Mmh. C'est ce que tu vois aujourd'hui sur les bandes, dans les mairies, dans les villes. Tu vois des personnes âgées qui sont là, qui ne bougent pas, qui normalement auraient l'âge de repartir. Mais ils ne repartent pas pour X raisons, qui sont liées à l'aspect économique. Voilà.
Il n'y a pas de projet d'ailleurs. C'est ils partent à l'immigration en vue de réussir. C'est ils pensent que c'est facile. Cela, c'est ce qu'en attendant Godot, ils attendent la mort, c'est-à-dire en attendant Godot de, du grand romancier dont le nom m'échappe. Oui, Beckett. Ils sont là, en fait, ils étaient venus pour repartir.
Bien sûr, avec
jeune. Avec la réussite à l'appui. Voilà. Mais comme ils n'ont pas réussi, du coup, écoute, qu'est-ce que tu veux ? Ils invoquent les raisons de santé, comme les mères invoquent l'accompagnement de leurs enfants pour rester. Ils n'ont plus envie, ils ont envie de retourner, mais leur vie est déjà passée. Ils n'ont existé que par la force de travail. Maintenant, ils sont dans la déchéance. Et ça, on ne dira jamais assez la souffrance de cela. Bon, ça nous éloigne un peu du football parce qu'ils regardent peut-être même pas les matchs, mais on ne dira jamais assez la souffrance et la solitude dans laquelle vivent ces hommes qui n'ont pas finalement fait de regroupement familial, dont les enfants et petits-enfants sont de l'autre côté et qui sont là en train d'attendre la mort parce qu'ils ont échoué. Et repartir.
Vous permettez, puisque la dernière pause, elle est très très courte, mais vraiment très courte. Ouais. On se retrouve pour la dernière partie de cette émission qui est très passionnante. Jusqu'à 20h, je vous le rappelle, avec Stanislas Frankel, auteur de ce livre Le football des immigrés, aux éditions Culture Sportive, Artois Presse Université.
Foot de sport revient dans un instant sur Beurre FM. Jusqu'à 20h, Foot de sport sur Beurre FM.
Allez, dernière partie de cette émission, notamment consacrée à ce remarquable ouvrage bien documenté sur le football algérien de Stanislas Frankel. C'est vrai que je vais d'abord laisser coach répondre, et ensuite on finira cette émission en beauté.
Tu vois, avec la pub, je me rappelle même plus de ce que j'allais dire. Je suis parti sur autre chose. Non, ce que je voulais dire surtout... ce fameux, c'est la chose qui a été le plus important pour nous, c'est le fameux retour. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous, on est petits.
L'espoir du retour.
Voilà. Non, c'est pour dire le retour, c'est-à-dire qu'à un moment, c'était ancré chez nos parents, mais vraiment que demain, on se fixe pas là, on retourne. On a eu ce discours-là pendant des années. Ensuite, il y a eu du jour au lendemain, plus de retour. Pourquoi, comment, je sais plus, je sais pas pourquoi. Et nous, on a vécu dans cette logique-là. On partait au bled, on revenait là. Mais pour les joueurs, les anciens joueurs qui étaient comme ça, eux, il y avait toujours cette notion du retour au bled, toujours. Et qui sont faits dans la vague, ils sont tous venus, et qui fait qu'il n'y a plus personne qui retourne. Dans toutes ces années-là, tous ces personnages-là avaient ce fameux retour, ils n'ont jamais vécu ce retour. Et après, là-bas, tu as été pris en grippe par les gens qui étaient là-bas, qui n'acceptaient pas ton statut de réussite sociale pour toi et pour ta famille, les gens, et en sachant que tu arrivais... en disant que tu détenais. Mais cette chose, c'était des drames qui se vivaient pour nous. C'est des choses énormes. Les gens le portent jusqu'à aujourd'hui. Et ce que disait Hassan tout à l'heure, les gens qui sont rentrés chez eux, qui n'ont pas de moyens pour rentrer, ils meurent ici. Ils finissent dans des cercueils. On ramène dans un cercueil en Algérie, on l'enterre en cachette dans des endroits monstrueux. Mais c'est dramatique, c'est cette vie qu'on a passée. Aujourd'hui, avec le recul, c'est plus que dramatique parce que, comme disait mon père, t'es ni là, t'es ni en France, t'es ni en Algérie. Vous, il vous reste juste la mer. T'as vu, entre les deux, c'est tout ce qui vous reste.
C'est la génération pourtant d'après qui utilisait cette expression. Parce que pour eux, ils n'ont jamais renoncé, ils n'ont jamais fait le deuil du retour. Ils n'ont jamais fait le deuil du retour. Et je défie n'importe qui de me dire le contraire. Parce que, des fois, la réussite sociale à laquelle ils avaient rêvé n'a pas eu lieu, bien sûr, mais il y en a qui ont réussi plus ou moins. Et ceux qui avaient un petit capital, ils l'ont fructifié au lendemain de l'indépendance. Ils sont repartis au pays, ils ont obtenu des places. Alors que les immigrants, quels qu'ils soient, de travail, l'immigration de travail, le retour ne doit pas se faire ni dans l'agriculture qui les a expulsés en tant que prolétaires, ni dans l'industrie qui les a et qui a fait d'eux des immigrés. Donc du coup, ils vont vers le tertiaire ou des choses, donc des petits commerces ou alors un savoir technique ou autre qui les sort de leurs conditions d'émigrés et d'immigrés, les deux conditions.
Alors, il y a quand même cette histoire, Stanislas Frankel, notamment, qui s'est passée lorsque, à l'époque, le footballeur algérien ne pouvait pas quitter quitté le territoire à Branloge, cet âge de 28 ans, qui était vraiment un obstacle. Et il a fallu tout simplement l'arrivée d'une nouvelle génération, c'est-à-dire celle de 82, qui a explosé pendant la Coupe du Monde en Espagne. Et de là, il y a eu ce qu'on appelle un bras de fer entre certains joueurs, notamment Madjar, Assad, etc., contre
c'est Assad.
Ouais,
contre c'est le seul. Attention, non, parce que l'histoire rappelle, c'est Assad qui a fait le travail par le biais de Mekoufi, qui a été voir le président de la République pour le libérer.
Parce qu'il parce que Madjar, à un moment donné, on l'a empêché de sortir. Il faisait partie de sa génération après, à qui on a dit vous ne sortez pas.
Un an après.
Voilà. Et du coup, comment vous avez vécu ce moment-là? C'est-à-dire que dans votre travail de chercheur, ce passage de cet âge de 28 ans à celui où on libère un joueur à 22, 23 ans, et qui a ensuite permis à plusieurs générations derrière de trouver enfin porte ouverte.
Ouais, moi j'ai eu la chance aussi de rencontrer tous ces joueurs. Hein,
oui, ben oui, c'est important.
Assad, Madjer, Ben Saoula Tej, oui, ouais. Gendouz. Madjer, bien sûr. Alors, bah c'est très intéressant. On est juste après le Mondial 82, de très bonnes performances. Bon, vous le savez, j'en parle. La revanche du Sud contre le Nord, le match contre l'Allemagne, etc. Bon, comment dire, Assad va au bras de fer lors de la réception. J'en parle hein, vraiment dans mon bouquin, lors de la réception au Club des Pins, il me semble, ou au Palais du Gouvernement après quand il rentre en Algérie. Bon, voilà, j'ai rencontré aussi le président de la FAF de l'époque, qui était Omar Kezal, hein, donc il m'a donné aussi sa version. Donc tout est recoupé dans le travail, dans le livre. Bah on est bien dans le cadre de l'étatisation du football. Le football, le sportif de haut niveau, c'est un ambassadeur national, c'est un héros national, et il appartient à l'État, surtout dans un pays qui se revendique alors comme socialiste. Malgré tout, il faut le dire quand même que certains joueurs étaient partis avant leurs 28 ans, bien avant. On a bien sûr Djamel Zidane qui est passé par la banlieue parisienne que j'ai rencontré avant d'aller faire sa carrière en Belgique. On a aussi d'autres joueurs un peu plus modestes, Tlemcen'i qui fait pourtant une longue carrière en deuxième division, que j'ai rencontré, Nasser Ouglis. On a aussi dans les années 80 que je l'ai rencontré à Rouen, qui est devenu chirurgien, qui est venu pendant ses études.
Ah, je le connais, c'est Khalifa Ben Messaoud.
Khalifa Ben Messaoud, bien sûr.
Pneumologue. Hein,
qui est venu à ma soutenance.
Je le salue d'ailleurs.
C'est Rola, on le salue.
Oui.
Et donc, il y a quelques joueurs comme ça qui avaient le droit à des petits bons de sortie, plus ou moins, parce qu'il y avait un imbroglio juridique entre une lettre de sortie d'un club, l'autorisation de la FAF, ou qui attendaient quasiment un an. Comme ça, ils étaient obligatoirement libérés. C'est le cas de Djamel Zidane. J'ai retrouvé ses archives à la FIFA. À un moment, il y a un bras de fer. La FIFA dit à la FAF, vous n'êtes pas sérieux. Maintenant, c'est terminé. Et ça fait un an qu'il ne joue plus. Donc, il va aller s'inscrire où il veut. Je crois que c'est à Beveren en Belgique, ou à Saint-Nicolas, ou quelque chose comme ça.
Oui, mais après, il a rejoint le club de Courtrai.
Mais en étant passé par Corbeil-Essonne. Mmh. Et donc voilà. Donc, ces joueurs, en tout cas, arrivent. L'étatisation du football. Et pour la première fois, pour ces joueurs algériens, depuis 20 ans, c'est l'ouverture au marché international. Et là, c'est assez exceptionnel. Malgré tout, les sorties vont se faire il n'y en aura pas trop, parce que c'est la fin d'une génération. Parce qu'aussi, il faut dire que les Madjer, Assad, etc., ils jouent en D2 en France ou en D1. Ils n'ont pas une carrière flamboyante, sauf Assad en 87 à Porto.
C'est Madjer à Porto. Hein.
Oui, pardon, Madjer, excusez-moi, bien sûr.
Assad, il était à Mulhouse.
Mais s'il sort, juste petite info, s'il sort en 80 à Mulhouse, si Mekloufi lui arrange un peu le coup, c'est que Mekloufi est nommé aussi directeur technique de Mulhouse. Et donc ça, il faut le dire. Donc, c'est pour ça que c'est plus simple pour Mulhouse. Et après, il y a la décennie noire.
D'accord.
Il y a la décennie noire. Et j'en parle, le football algérien en crise, l'État qui se retire en 89 du football algérien, c'en est fini de la réforme sportive qui avait commencé en 77. Et là, finalement, il y a de moins en moins de sorties, il y en a quelques-unes. Bon, vous connaissez Saifi, ça va arriver, Saïb, Tasfaout,
c'est ça, ouais.
Moins en moins. Et là, on voit que ça reprend depuis une petite dizaine d'années, notamment avec le Paradou. Voilà. Et les destinations aussi, depuis les années 80, c'est plus seulement la métropole ou l'ancienne métropole. Il y a une internationalisation des zones géographiques, notamment vers le Qatar, vers des championnats qui sont aussi bien plus rémunérateurs.
Tout à fait.
Moi, j'ai une question à lui poser, parce que c'est la dernière. Comment tu es impacté par... Est-ce que l'impact, tu le vis personnellement? Tu sens une transformation? Tu sens que tu vas finir algérien? Tu vas finir algérien? Je ne sais pas, parce que je te regarde, tu es plein de passion.
Double national.
Je ne sais pas. Je sais pas.
Non, en fait, vous savez.
Vous étiez sous le charme de toute cette histoire.
Ben là, je suis dans le moment de l'euphorie d'avoir la chance de parler de mon travail. Ouais. Donc ça, c'est exceptionnel. Mais c'est sûr que faire une thèse, c'est quelque chose d'obsessionnel. Ben oui, on peut pas réussir une thèse si on n'a pas d'obsession. Absolument. C'est-à-dire, c'est du jour et nuit, H24. Ouais. Et je sors quelque part. Quand j'ai démarré cette thèse, j'avais 23 ans. Aujourd'hui, j'en ai presque 40. C'était un jeune homme qui est devenu quelque part aussi un homme associé à la naissance de ma fille il y a 3 mois, là, en même temps que la sortie de mon livre.
Je souhaite le meilleur.
Et donc, merci. Donc, c'est formidable. Et c'est aussi des expériences de vie, des rencontres. Et puis, un travail aussi sur soi, comme je vous l'ai dit, pour un peu essayer de dépasser les clichés, pour traverser le miroir, pour aller voir comment ça se passe de l'autre côté. Et j'ai été frappé par, moi, quand je suis arrivé en Algérie en 2006 pour faire mes entretiens, j'avais encore peur. J'avais des images de films, parfois des films, des ninjas, des contrôles de police, etc. Il n'y avait plus ça. Alors aussi, il faut dire que j'ai démarré à Oran, donc une ville super sympa, mais j'étais frappé par l'hospitalité, la chaleur des gens, la sincérité, et puis aussi aucune animosité vis-à-vis de moi ou de la France, etc. Moi, j'étais là, ils étaient plutôt contents que je m'intéresse à eux, où j'ai eu la chance d'être hébergé dans une super famille à Oran, et aussi de bénéficier du studio qui était mis gracieusement à ma disposition par le Centre culturel français d'Alger, où j'ai passé presque un mois et demi tout seul. Et ça, voilà, discuter avec les gardiens, discuter avec les gens, discuter avec les commerçants, au cybercafé. À l'époque, il y avait beaucoup de cybercafés. Je sais pas s'il y en a autant aujourd'hui. Mais c'était des super moments et inoubliables. Et formateurs aussi, c'est formateurs.
Alors, est-ce que tout le travail a été fait par écrit ou bien vous avez gardé quelques audios éventuellement pour vos archives aussi, hein?
J'ai tous les audios, j'ai l'intégralité de tous les entretiens qui sont retranscrits, de tous les entretiens. Donc j'ai 3000 pages d'entretien intégralement retranscrits à la ligne. Alors peut-être qu'il y aura un projet avec la maison d'édition Artois Presse Université où est publié mon ouvrage. On verra la collection Culture Sportive dont je viens de prendre la direction. Mais en tout cas, voilà, il peut y avoir d'autres projets, pas force. Voilà, on pourra aussi. Alors moi, dans mon travail, j'ai mis des pistes de continuité, notamment travailler sur la reconversion des joueurs. Ça n'a pas été fait. Il y a d'autres pistes, travailler sur le football colonial aussi, avant 62, qu'il ne faut pas oublier, où il y avait aussi des joueurs musulmans qui étaient dans les clubs européens. Et ils étaient bien, parce qu'on leur fournissait un travail, on leur disait, voilà, où est-ce qu'ils pouvaient peut-être mieux s'habiller. Ça, j'ai des témoignages. Les Maouches, les Zouba, ils sont passés par l'AS Saint-Eugène Alger. L'Arbi Boussa a joué au Racing Universitaire Alger avant de faire une longue carrière en France. Donc, il y a des projets. Donc, il y a des projets, mais ces projets, je ne pourrais pas les faire tout seul. Donc, il me faudra des étudiants, des gens qui ont envie de travailler, voilà, de s'inscrire à l'Université d'Artois avec moi et de faire des mémoires de recherche et peut-être des doctorats. Et aussi des projets avec Oran. Avec Oran, je connais de très bons chercheurs là-bas.
On m'a posé cette question tout à l'heure via les réseaux sociaux. Où peut-on se procurer ce livre ?
Alors, on peut se procurer le livre sur le site d'Artois Presse Université en tapant Stanislas Frankel ou Le football des immigrés. Il est aussi sur toutes les grandes plateformes Amazon, la Fnac, Le Furet du Nord. Ou alors, vous pouvez le commander directement chez votre libraire préféré.
D'accord. Très bien.
On vous mettra toutes les informations. On vous mettra toutes les informations directement sur la page Food de Sport. Et moi, je voulais revenir aussi sur autre chose. Donc, à part Le football des immigrés, ton livre Le football des immigrés, tu as écrit d'autres livres. Hein.
Tout à fait. Il y en a notamment un qui a été primé par l'Union des clubs professionnels de football, où je me suis intéressé, toujours dans une démarche un peu chronologique ou plutôt généalogique, à l'histoire des agents sportifs dans le football. Donc ça, c'est pareil. Loin des polémiques, loin du côté, voilà, chercher la petite bête, mais plutôt de manière générationnelle, comme dans ce livre. Qui sont les premiers agents sportifs? Comment leur métier s'est-il créé et transformé? Et on voit, je vous l'ai dit, des liens très forts avec des pieds noirs, avec Larios, avec Genestar, avec Marouani, ces premiers impresarios. Et ce bouquin, par contre, est publié aux éditions du CIES à Neuchâtel. En fait, sincèrement, c'était un travail qui était financé, j'avais eu une bourse de la FIFA. Par contre, le bouquin que je suis venu vous présenter aujourd'hui à Artois Presse Université, là, ça, c'est vraiment d'un point de vue identitaire. Tu posais la question, Nasser, ça, c'est très fort pour moi. Ça, c'est toute ma vie. Ça, c'est ma carte de visite. Ce que j'aurais regretté si j'étais, voilà. Ça, c'était quelque chose qu'il fallait faire au moins une fois dans ma vie. C'est fait. Donc, je suis super heureux, soulagé.
Voilà. Bah, c'est bien. Et la suite du livre, c'est quoi derrière?
La suite du livre, c'est peut-être dans 5 ans de travailler Alors là, j'ai un étudiant aussi qui est avec moi, là, qui a soutenu son Master 1, de travailler plutôt sur des trajectoires de binationaux, de joueurs binationaux, mais plus récents. Parce que moi, je vous l'ai dit, le plus jeune que j'avais vu, c'était Djamel Belmadi, et Hicham Mouissi, qui est de Roubaix. Là, ça serait plutôt d'aller raconter cette histoire de manière, quasiment scientifique, rigoureuse. En gros, 2001, 2025 ou 2030. Et notamment dans ce dont tu parlais sur les ambiguïtés, la difficulté de se faire une place dans le vestiaire. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple qu'il y a 30 ans. Hein, Yazid m'en avait parlé. Ou plein d'autres joueurs, il y avait des vexations. La traversée du miroir ne se faisait pas sans tension ni désillusion.
Complètement. Hein.
Il y a aussi une autre piste de recherche qui est celle des reverse migrations. En gros, il y a 10% des joueurs du championnat algérien qui sont nés en France. Et ça, il n'y a pas eu de recherche scientifique sur ces beurs, entre guillemets, qui viennent travailler dans le championnat algérien, qui est devenu encore un peu plus rémunérateur. Là aussi, il y a une piste, mais je ne peux pas faire tout seul. Parce que moi, je suis enseignant-chercheur, je suis administratif, j'ai du boulot. Donc là, des étudiants qui viennent, des étudiantes, on vient, on travaille, on va trouver de nouvelles archives, des sources orales, et on pourra faire, j'espère, un travail de qualité.
Je te souhaite bon courage.
Merci, Nasser.
Très bien. Alors, peut-être aussi une dernière question via Sofiane ou via Nawel, parce que vous avez du mal à vous exprimer. C'est vrai
Sofiane, on ne l'a pas entendu.
Non, on est bluffé.
Parce que Sofiane, c'est la nouvelle génération.
Nawel a parlé une fois, mais Sofiane, ça fait longtemps qu'il n'a pas dit.
Non, mais parce que Sofiane, normalement, de toute façon, c'est une génération. C'est quoi cette génération maintenant
New generation.
Oui, genre Aden Guedioura, genre.
Riyad Mahrez,
par exemple.
Par exemple.
Il y en a d'autres. C'est une autre question. Ce sont parcours de Riyad. Ouais. Est tellement atypique, c'est que même ils l'ont tellement banalisé que c'est un mec de Sarcelles que j'ai connu moi, parce qu'à ces périodes-là, il venait me voir en Noisy, que j'ai vu jouer deux fois moi contre Le Havre, que Le Havre le calcule pas du tout, mais vraiment. Hein. Et je suis dans les vestiaires avec lui au Havre et Leicester le demande. C'est le seul club Leicester le demande. Ouais. Et lui ne veut pas y aller du tout. Et son frère qui est là. Et on a discuté, je dis, mais les Anglais, c'est des poteaux, tu vas faire du travail, tu vas comme des qui, tu vois, je sais pas, non, Le Havre. Et je dis à l'entraîneur du Havre, qui était un ex-formateur, je lui dis, mais chez vous, au Havre, il n'y a pas d'ouverture, impossible. C'était Eric Humbert, qui était là-bas, j'ai dit, il n'y aura pas d'ouverture là. Et le môme est parti. Et quand tu vois le cheminement, et quand tu vois aujourd'hui ce qu'est un garçon de banlieue de Sarcelles, et ce que je vois, moi, tout ce qui se passe autour de sa ville à Manchester City, c'est énorme. Mais c'est.
Beaucoup de joueurs comme ça, des quartiers.
Ah, mais c'est le cas. Oui, mais c'est ça. Tu te rends compte, toi, du parcours du monde de Sarcelles là.
C'est des parcours
en même temps, mais très vite. Il a 20 ans, il a 20 ans à Sarcelles, lui. Il a 22 ans à Quimper. Il a 23, 24 ans, il est à.
Oui, mais Nasser, il y a d'autres joueurs qui
se retrouvent à Manchester City.
Et qui ont eu un parcours, toutes les trajectoires.
Ça va très vite.
De ces jeunes joueurs qui sont partie des cités sont passionnantes. C'est pas seulement intéressante, mais passionnante.
Je sais pas comment
bouger sur lequel on va se pencher. Brutal, hein.
merci. Et puis juste pour finir,
vous
rappeler que
un mot de Sofiane quand même.
Pardon, Sofiane.
Oui, qu'est-ce que tu penses de ce qu'on a dit, le livre, les footballeurs de plusieurs générations, troisième génération, troisième génération de footballeurs. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Sofiane, toi, qui est à la troisième,
ou la cinquième, lui.
Oui, la cinquième du point de vue algérien, oui, c'est sûr.
Ça, ça dépend, moi, je suis fils d'immigré.
Oui, voilà, c'est fait. Voilà.
Enfin, demi-fils d'immigré, mais enfin, quand la science parle... L'ignorance se tait, moi j'écoute à tout ce qui se dit. Non, moi simplement une question, j'ai regardé un petit peu le déroulé du livre et on vous parlait du match France-Algérie 2001. Alors à quel point ça a été un tournant, et je sais pas si on aura le temps, mais à quand un autre France-Algérie, parce que c'est un serpent de mer qui revient à chaque fois. ça se fait jamais.
Algérie-France, c'était programmé, je sais pas, 2022-2023. C'est un tournant, on peut pas faire une émission, on pourrait faire une émission entière là-dessus, mais c'est un tournant parce que pour la première fois, moi j'ai analysé toutes les feuilles de match depuis 62, pour la première fois, on a 5 footballeurs nés en France, donc la majorité des joueurs, qui débutent le match. Et c'est la prise de pouvoir, en fait, des binationaux qui commence dans ce match France-Algérie, même s'il y aura des moments de creux, puis ça va revenir, en fait, au gré des politiques fédérales, mais c'est la prise de pouvoir des immigrés, en fait, qui commence tranquillement lors de ce match France-Algérie. C'est un tournant aussi parce que c'est l'impossible réconciliation au Stade de France qui est visible, qui s'affiche. On pourra en reparler.
Attention, très lourd.
Et juste pour rappel, ma chaîne YouTube d'histoire du sport qui s'appelle Temps de sport, pour celles et ceux qui veulent me rejoindre.
Très bien, merci Stanislas Frankel. Je rappelle votre livre, Le football des immigrés.
L'histoire en partage avec cette photo. J'ai reconnu le garçon Chérif Moudjani aux éditions Culture Sportive Artois Presse Université. Merci à toutes les personnes qui sont venues ici pour cette émission, notamment Hassan Zeraoui, Sofiane, Nawal et notre coach national, et bien évidemment à notre invité Stanislas Frankel. J'aurai le plaisir de vous retrouver dimanche prochain. Alors je ne sais pas si ce sera la dernière ou pas, en tout cas ce qui est certain, c'est qu'il y aura bel et bien une émission Foot de Sport dimanche prochain. Salut à tous.